Voilà, donc c'est le premier cours sur la liturgie. Il y aurait dû y avoir des cours auparavant, mais bon, je n'ai pas été à la hauteur de la situation, comme tout le monde s'en est aperçu. Et donc, je vais essayer de rattraper ma place au paradis ce soir. Et alors, donc, il m'a été demandé par mes collègues du centre de maîtrise Staneloé de faire cette année plutôt des cours, enfin des exposés de ce qu'on appelle propédeutique. Alors propédeutique, ça désigne en langage universitaire, disons, les bases qu'on donne aux étudiants, les bases voilà, les plus intéressantes, pour pouvoir après ça développer. Parce qu'en fait, je crois que mes collègues ont tout à fait raison, évidemment, c'est que si on parle tout de suite de... Et si on fait des développements toujours très compliqués ou plus élaborés, c'est intéressant, on est content de le faire, on se trouve intelligent, on se trouve brillant, etc. Mais ça n'est pas très utile parce qu'il manque le support sur lequel ces idées sublimes sont censées s'accrocher. Et donc voilà, donc c'était très bien d'envisager cette année de propédeutique. Donc en ce qui me concerne, je fais ça pour la liturgie et pour la dogmatique, qui sont les deux matières, c'est donc forcément les deux matières reines, les matières les plus intéressantes. Bon, vous n'allez pas me dire le contraire. Bon. Alors, en ce qui concerne la liturgie, moi, déjà, ceux qui, parmi vous, ont suivi des cours que je faisais les autres années, ont très bien compris que, pour moi, la dogmatique est dans la liturgie et que la liturgie est dans la dogmatique. C'est-à-dire que on distingue pour des raisons pratiques, on distingue ces deux disciplines, mais en réalité, la dogmatique n'est pas autre chose qu'une célébration de la vérité divine telle que Dieu se révèle. C'est extraordinaire, d'ailleurs, on en reparlera. Mais vous allez me dire, ça c'est déjà un peu compliqué, reste au niveau propédeutique. Bon. Et la liturgie n'est pas autre chose qu'en fait une proclamation du dogme de l'Église. Alors c'est pour ça que je suis très content que Mgr Joseph a insisté pour que je continue à faire ça, alors que j'aurais voulu laisser, mais il a insisté parce que en fait ça m'intéresse beaucoup. Bon, alors pour ce qui est de la question de la liturgie, ce soir c'est un peu une introduction qui arrive après les cours qui n'ont pas eu lieu, et cette introduction consiste pour moi en fait à essentiellement essayer de voir quelles sont les raisons d'être de la liturgie. Je pense que ça peut s'adresser effectivement à tout public, toute personne dans une paroisse, par exemple, ce serait comme une catéchèse. Au fond, la propédeutique, c'est au fond globalement le niveau de la catéchèse paroissiale, je pense. Donc, dans une catéchèse, on répondrait aux questions des personnes qui sont là ou qui ne sont pas là, mais qu'on a rencontrées dans la rue, ou dans les transports en commun, ou en famille, ou à la sortie de l'église, et qui au fond pose une question, c'est-à-dire, mais au fond, pourquoi la liturgie, pourquoi faire, au fond? Quelle drôle d'idée. Alors, on se rend compte que pour certains chrétiens, surtout orthodoxes, ça va de soi, parce que la liturgie, c'est la base de l'église, on fait que ça, etc., etc., etc. Pour d'autres, c'est pas du tout aussi évident. Moi, je connais beaucoup de chrétiens de bien meilleurs que moi, chrétiens, qu'on ne voit soit jamais à l'église, ou qui n'ont... Moi, j'ai écouté une de mes amies, pendant 2 ans ou 3 ans, n'a pas mis les pieds à l'église, comme on dit. Donc, n'a pas fait ses Pâques, elle n'a pas fait Noël, n'a pas communié depuis un temps fou, elle n'a pas... s'est pas confessée depuis un temps fou. Mais pendant tout ce temps-là, cette personne-là a été une très bonne personne, a mené une vie très pure, très agréable à Dieu, elle a prié à la maison... Vous avez aussi des gens qui disent, mais moi je ne veux pas à l'église, mais je prie chez moi. Enfin, ce n'est pas évident pour tous, si vous voulez, cette importance de la liturgie que je lui accorde volontiers. J'essaie justement de parler contre moi-même, parce que en ce qui me concerne, je suis un être assez liturgique, je ne vois pas très bien comment je pourrais faire autrement, mais j'essaie de mettre à la place de mes amis, et très franchement, je pense qu'il y a quand même... la très grande majorité des gens sur Terre, déjà, ne participent jamais à aucun office liturgique. 90% de l'humanité ne communie jamais au corps et au sang du Christ. Un peu moins, mais un pourcentage important n'est même pas baptisé. un petit peu moins, mais un pourcentage important, ne confessent pas la vraie foi, ou confessent un peu des choses bizarres. Et un petit noyau dans l'Église catholique, dans l'Église orthodoxe et dans l'Église protestante, pour nous prendre que ces dénominations-là participent, donc d'une manière assez minoritaire quand même, au culte de sa propre Église. Je peux vous dire que dans le monde protestant, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les protestants, je m'entends très bien avec eux, eh bien la participation au culte, ils appellent ça, c'est le nom qu'ils donnent à leurs offices, la participation au culte, si vous voulez, est plutôt minoritaire. C'est pas aussi catastrophique que dans l'Église orthodoxe quand même, mais tout de même, si on prend une communauté protestante géographiquement délimitée, la part de non pratiquants, comme on dit, est très importante. Dans l'Église catholique, où la pratique est quand même très forte, alors, au contraire de ce qu'on dit, parce qu'on entend dire que les églises sont vides, c'est pas du tout vrai, que ça dépend des régions, il y a des régions de France où les églises catholiques, bien sûr, sont pleines plusieurs fois par jour, ça marche pas si mal que ça, n'empêche que la proportion de personnes qui ont une pratique liturgique, sacramentelle et cultuelle est en tout cas minoritaire, ce n'est pas la majorité. Et dans l'Église orthodoxe, je peux vous dire, enfin, pour ce qui est d'ici, la situation ici en France, par exemple, on en parle souvent avec les évêques et les autres prêtres, et puis avec tout le monde d'ailleurs, on s'est aperçu qu'il y a à peu près 10% des orthodoxes qui ont une vie liturgique, culturelle, régulière. 10%. Il paraît que c'est bien. Alors moi, qu'est-ce que je vous dise, je sais pas. Enfin, 10%, mais c'est formidable. Bon. Mais ce n'est jamais que 10%. Alors quelqu'un m'a dit, mais toi c'est pas grave, parce que regarde l'évangile des lépreux, il y avait 10 gars qui ont été guéris, il y en a un qui est venu sur 10, et pour remercier le Christ, et bien c'est ça, ça fait un sur 10, mais un sur 10, c'est 10%, non? Je me trompe pas, oui. Bon, mais donc, telle est la situation. Je ne pense pas exagérer. Et dans les pays chrétiens sociologiquement, ce serait trop long de faire une statistique, mais je peux vous dire même qu'en Roumanie, donc j'en parle parce que c'est mon église, la participation à la vie liturgique n'est pas du tout ce qu'on pense. D'abord, ça dépend beaucoup des régions, et ça dépend beaucoup des générations, et ce n'est pas du tout ce qu'on pense. On dit que les églises sont pleines, mais elles sont assez petites, et il n'y a qu'une liturgie par jour. Et le dimanche, en semaine, souvent, il n'y a personne qui va dans les églises, une personne de temps en temps qui vient mettre un cierge, quelquefois beaucoup de monde pour l'office de l'onction des malades, le Marslou, dans les paroisses qui le font, il y a du monde dans les monastères, bien sûr, il y a 1000 personnes à Soutchava pour la fête, enfin, bien sûr, d'accord, il y a 1000 personnes pour le pèlerinage de Saint-Parasève, bon, il y a des événements comme ça, si vous voulez, qui sont énormes, il y a 1000 personnes pour Pâques, bon, je suis d'accord, mais là, je sais pas, moi je connais surtout Bucarest, où j'ai été quand même beaucoup, la participation de la population bucarestoise à la vie liturgique, ça reste quand même, si c'était la moitié des bucarestois orthodoxes qui participaient à la vie liturgique des paroisses, ce serait déjà pas mal du tout. Mais je crois qu'on est très en dessous. Je connais beaucoup, beaucoup de mes amis roumains qui sont des très bonnes personnes, de tous les milieux. Ils ne vont pas beaucoup, ils y vont une fois par an, peut-être deux fois par an, trois fois par an. Ou quelquefois pas du tout, une de mes amies me dit non, je vais pas aller. Vous les Roumains que j'ai rencontrés ici, qu'on rencontre dans les paroisses ici, francophones ici, je leur dis, écoutez, vous venez pas beaucoup à l'église. Elle me dit, mais nous en Roumanie, on n'allait pas à l'église. On va pas à l'église, on n'a jamais été à l'église. Non, ça se faisait pas du tout. Pourquoi voulez-vous qu'on aille ici? Elle dit, on va plutôt plus ici. Depuis qu'on est en France, on va un petit peu plus à l'église. En Roumanie. Donc, si vous voulez, des sondages comme ça nous permettent de savoir que les gens vont très peu. Et les milieux grecs, moi j'ai eu des fidèles grecs, chypriotes, c'est pareil, très peu, très peu, très peu, très peu. Bon, c'est pas grave, parce que je dis pas ça pour faire pour pleurer, etc. Parce qu'en fait, non, la question, moi, m'intéresse beaucoup. C'est que ces personnes qui ne vont pas à l'église, pas simultanément, sont des personnes qui se considèrent comme chrétiennes, déjà, qui répondent aux statistiques en disant qu'elles sont orthodoxes, qui tiennent beaucoup à leur identité orthodoxe, qui souvent sont capables de jeûner, qui sont capables de prier, qui sont capables et en tout cas qui sont capables de comportements vraiment chrétiens, de donner leur vie, leur sang, leur temps pour les autres, sont capables de vivre leur christianisme autrement que cultuellement, voilà. C'est ça, moi, mon problème de cours sur la liturgie, c'est que je veux bien parler de la liturgie, mais j'ai oublié de constater que pour un nombre important de chrétiens, toute confession confondue, un nombre important de chrétiens, la vie chrétienne ne passe pas forcément par son expression culturelle et liturgique. Et que les gens qui tiennent beaucoup à ça, qui sont même prêts à vous démontrer qu'ils sont des bons chrétiens, bien qu'ils n'aillent pas à l'église. Oui, donc ça devient polémique après, hein. Mais, bon. Donc, c'est vrai, du coup, moi, je me pose la question, c'est ça mon introduction. C'est vrai, les liturgies, mais au fond, pourquoi faire? D'où est-ce que ça vient? Est-ce qu'il y a des motifs intéressants en dehors du traditionnalisme, en dehors des formalismes, en dehors des obligations religieuses, en dehors de la pression sociale qui n'existe pas beaucoup en France, mais qui existe encore dans certains pays sociologiquement chrétiens? Il y a en France, il y a quelques générations, quand tu n'allais pas à l'église, les gens dans le village te montraient du doigt, ils disaient « Oh, il ne va pas à l'église !» Les gens y allaient à l'église uniquement pour qu'on leur fiche la paix, c'est tout, vous voyez. Bon, maintenant, il n'y a plus ces choses-là, donc, quels sont les motifs? Est-ce qu'il y a des motifs intéressants? Bien sûr qu'il y en a. Alors, j'en ai trouvé, j'ai fait une liste, comme un grand, tout seul, j'ai cherché qu'est-ce que pouvaient être les motifs. Mais ce sont des motifs très intéressants, en fait, qui font qu'on va quand même défendre l'activité liturgique comme une activité irremplaçable, même si elle est relativement minoritaire dans la vie des croyants. Parce que je considère que qu'en dessous de 50%, c'est bien minoritaire. C'est comme les votes dans les assemblées. Ah bah oui, quand il y a moins de 50%, ben c'est considéré comme minoritaire. Et quand c'est moins de 50%, alors c'est vraiment très peu, hein. Mais bon, on va dire que c'est pas très très grave et qu'il y a peut-être aussi un mystère derrière ça aussi. Que l'absentéisme, que je constate moi-même dans la paroisse où je suis avec mes collègues du dessert d'une paroisse avec plusieurs prêtres, ben on est bien obligé de constater que sur 150 personnes qu'on pourrait voir, l'absentéisme est vraiment énorme. Il y a des personnes qu'on voit très 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 peu. Vous voyez qu'il y a toujours autre chose, toujours une autre raison, toujours. Et ils ne vont pas forcément dans une autre église. S'ils allaient dans une autre église, je m'en réjouirais, mais pas forcément, vous voyez. Donc l'absentéisme est quand même une donnée permanente de la vie de nos paroisses. Et ici, à la cathédrale, ça ne veut rien dire de nous dire que la cathédrale est pleine. C'est idiot de nous dire ça. Parce qu'elle est pleine ici, mais dans le même moment, il y a quatre fois ce nombre-là de Roumains qui sont ailleurs qu'à l'église, qui font autre chose. Donc, il ne faut pas se boucher les yeux non plus. Donc, on va quand même défendre le principe liturgique comme une chose intéressante. Et la première chose que j'ai trouvée, en cherchant dans me faisant aider quand même aussi par des gens plus compétents que moi, au fond, la première raison, elle est, le premier motif, c'est que c'est un motif, ça devient un peu compliqué tout de suite, nous en parlons, un motif cosmologique. Alors, cosmologique, c'est pas grave, c'est pas une maladie, ça, c'est pas un gros mot. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la liturgie qui s'enracine dans la vie de la création, dans la vie des créatures, dans ce qu'on appelle le cosmos. Alors, le mot cosmos n'est pas vraiment un mot chrétien, d'ailleurs. C'est un mot fil de la philosophie grecque, et qu'on a emprunté, et qu'on utilise beaucoup. Donc, on parle de cosmologie pour désigner la théologie de la création. Mais en fait, le mot cosmos, on ne devrait pas l'employer. On devrait employer que le mot ktisis en grec. Ça devient un peu compliqué, pardon. Ktisis, ça s'écrit K-T-I-S-I-S. C'est-à-dire le mot qui en grec veut dire création. Et en français, on aurait employé que le mot création. Même pas le mot monde. Monde, ça veut dire autre chose. On parle de création. C'est une réalité qui est reliée à un créateur, qui appartient à quelqu'un et dans lequel ce quelqu'un se retrouve et se reconnaît. Donc, or, quand on considère la création, on s'aperçoit justement que les créatures célèbrent. Ça, c'est très, 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 très intéressant, ça. Que le fait de la célébration est quelque chose qui ne nous appartient pas à nous, les hommes, de manière exclusive. C'est vraiment très intéressant, ça. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible qu'on voit ça, dans les psaumes. Et même plus haut que ça. Par exemple, il y a quelque chose qui est très intéressant, ce sont les tout premiers versets de la Genèse, quand Dieu créant la lumière, tout ce qui est créé, les animaux à deux pattes, à quatre pattes, enfin bon, toutes ces bestioles, etc., comme on dit. Il regarde tout ça et chaque fois, à la fin de chaque jour, il dit, c'est bon. Et vous savez qu'en grec, bon, ça veut dire à la fois beau, bon, beau et vrai. Enfin, c'est un concept assez complexe. Donc, ça veut dire que Dieu lui-même voit dans ses créatures le rayonnement de sa propre sagesse. Ça ne veut pas dire que Dieu soit un espèce de Dieu narcissique qui se regarde dans le monde comme dans un miroir, un Dieu très immature au fond, hein, c'est un petit Dieu adolescent qui se regarde dans la glace toute la journée pour voir comme il est beau. C'est pas exactement ça, c'est plus profond en fait. C'est-à-dire que Dieu atteste. C'est très intéressant, c'est qu'il y a une attestation divine, il témoigne que sa créature est remplie de la sagesse dont il est la source. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et c'est-à-dire qu'en fait, et c'est ça, c'est le début de la célébration. Toute célébration liturgique est de ce type-là. C'est-à-dire qu'elle est une célébration qui est sous le regard de Dieu et qui est agréable à Dieu, qui est offerte à Dieu et dans laquelle Dieu se reconnaît. Et si Dieu peut se reconnaître dans la célébration liturgique, alors bon, tout va bien. C'est important. Mais il y a beaucoup d'exemples dans l'Évangile, par exemple. Il y a un moment où on voit Dieu, le Dieu homme, le Christ, le Dieu homme, on le voit s'émerveiller de l'intelligence de quelqu'un ou de la foi de quelqu'un. Oui, c'est assez fréquent. Il y a plusieurs exemples. Trois, quatre exemples. Il dit, grande est ta foi. Et donc cette capacité que Dieu a de dire de sa créature quelque chose de très très important, de dire à sa créature qu'elle est belle, qu'elle est intelligente, qu'elle est super, qu'elle est sage et qui se reconnaît en elle. Donc à mon avis, c'est vraiment le premier fondement de l'activité liturgique. Ça ne crée pas une nécessité non plus, parce que quelqu'un m'a dit, mais si, parle de la nécessité de la vie liturgique. Il n'y a pas de nécessité, mes amis. Il n'y a absolument rien de nécessaire, je suis désolé. Et la preuve, d'ailleurs, c'est qu'il y a 80% des gens qui ne sont pas à l'église le dimanche matin. Ça prouve bien que tout va très bien. Tout va bien, il n'y a pas de nécessité. Il n'y a pas de nécessité. Si c'était nécessaire, ils seraient tous là. Mais ce n'est pas nécessaire. Hein. Mais il y a quelque chose qui est irremplaçable et incontournable dont on ne peut pas, priver le monde, on ne peut pas zapper la dimension liturgique de la création de l'humanité, on va y venir, mais même de la création elle-même, on ne peut pas ne pas dire ça. Et c'est très important parce que, si vous voulez, ça va aussi assez loin, c'est-à-dire que les pères anciens ont eu cette idée, sur la base biblique toujours d'ailleurs, de dire que finalement, toute la rationalité profonde du monde, des créatures, parce que les créatures sont extrêmement... un comportement extrêmement intelligent. Il n'y a rien d'absurde dans le monde. Les savants le voient très bien. Heureusement qu'on a les savants pour venir nous soutenir, parce que quelquefois on a besoin d'un certain soutien quand même. Et le monde scientifique atteste justement la rationalité profonde de la création. Mais même s'il n'y a pas le monde scientifique, les saints le voient aussi. Les saints voient justement combien tout c'est tellement sage, tellement bien fait, tellement bien composé, tellement... Et ça, dans la Bible, on avait vu ça beaucoup, ça, les psaumes que vous connaissez, le psaume 104, le psaume 103, je n'ai pas le temps de vous lire tout ça, si vous voulez, mais surtout le psautier, mais surtout un grand nombre de psaumes attestent justement cette sagesse de la création, cette logique profonde, cette rationalité profonde du monde. Or, cette rationalité, suivant les pères, surtout Saint Maxime le Confesseur, mais la plupart d'entre eux, cette rationalité n'est pas une espèce de rationalité autonome, comme quelquefois le pensent les scientifiques, qui pensent pas, ils n'ont pas toujours le temps de penser à Dieu, bon, donc ils voient dans le monde une rationalité objective. En chimie ou en physique, on voit bien qu'il y a des lois, etc., donc on constate une certaine rationalité du monde. Mais les saints voient plus loin, ils voient que cette rationalité est l'expression de la raison divine, que ce monde est là, l'icône en quelque sorte de la sagesse divine. Ça a été beaucoup beaucoup développé, mais ça c'est une base justement pour l'activité liturgique. Ça veut dire que la création, ça m'intéresse beaucoup, qu'une créature, un oiseau ou un poisson, je pense que vous aimez comme animaux, ou une fleur, une plante, etc., par son existence même, par sa seule existence, elle est déjà dans un état de célébration. C'est-à-dire son existence elle-même, par sa rationalité, par sa beauté, par l'émerveillement qu'elle suscite chez ceux qui l'observent, mais en elle-même, même s'il n'y avait pas de témoin, même s'il n'y avait aucun être humain, aucun enfant, aucune femme pour s'émerveiller de la beauté de cette fleur, imaginez qu'il n'y ait personne. C'est un monde où il n'y aurait que des plantes, des oiseaux et pas d'hommes pour le dire. Mais ces créatures-là, en elles-mêmes, par leur beauté, l'intelligence qu'elles expriment, la sagesse qu'elles comportent, leur structure, en elles-mêmes, sont un hommage rendu à la sagesse de Dieu. Voyez, ça c'est très très important, par elles-mêmes. Voyez, alors si en plus il arrive un poète, arrive un saint, arrive un scientifique, arrive un écrivain, ils vont attester ça, dire « Ah oui, voilà, tes œuvres te chantent, Seigneur, tes œuvres sont magnifiques, Seigneur, comme a dit le prophète David. » Mais même si le prophète David s'était pas levé ce matin-là pour le dire, les créatures chantaient quand même, voyez. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est très intéressant, que les oiseaux, par exemple, ils chantent pour deux raisons, pour plusieurs raisons. Ils chantent en grande partie pour marquer leur territoire, c'est-à-dire en fait... souligner une structure, un domaine dans l'espace et dans le temps. Ils chantent toujours à des heures précises, ils chantent en liaison avec la chaleur, la température de l'air, avec la durée de la lumière de la journée. Bon. Et donc, essentiellement pour marquer leur territoire. Mais quand ils chantent, ils font quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire qu'ils expriment à leur niveau, ils expriment une structure logique, rationnelle, sage, une sagesse qui est dans l'ordre de la création. Oui. Ça, c'est très très important. Et ils chantent pour d'autres motifs aussi, pour éloigner les ennemis. C'est très intéressant. Le rossignol fait ça. Il n'y a plus beaucoup de rossignols malheureusement en France. Enfin, à l'époque, il y en avait. J'ai quand même connu ça. Il chante pour éloigner l'ennemi de son nid, pour l'attirer dans un autre endroit. Donc, il y a dans la sagesse du monde animal aussi quelque chose, une forme de célébration, si vous voulez, qui a une nature de protection. Or, en fait, on retrouve ces deux dimensions-là dans la prière liturgique. C'est que nous prions liturgiquement pour louer Dieu, mais également pour lui demander d'éloigner de nous les ennemis spirituels, les dangers, la maladie, la souffrance et la mort. Donc, c'est assez intéressant. Alors, ici, il y a... Pardon. C'est pour cette raison-là que les pères anciens, c'est Saint Maxime le Confesseur surtout, ont parlé à propos de la création, ils ont parlé de liturgie cosmique. Ils ont très bien vu qu'il n'y a pas besoin... Alors, vous avez dit, mais pourquoi faire des églises? Attendez, on va en parler, mais même s'il n'y avait pas d'église, même s'il n'y avait pas la liturgie de Saint Jean Chrysostome ou de Saint Basile ou de Saint Germain de Paris ou Saint... qui vous voulez... la liturgie, mais elle existe. Elle existe quand le jour se lève, c'est tout. Vous voyez, quand les fleuves coulent, quand les fleurs... je ne sais pas si vous aimez la poésie, il faut lire les poèmes d'Arthur Rimbaud. Ce n'est pas un père de l'Église, mais enfin, c'est même un petit peu égal. Arthur Rimbaud, qui n'a pas que des qualités, en avait quand même un certain nombre. Et il a écrit un poème qui s'appelle « Aube ». Et dans « Aube », qui est un poème en prose, une très 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 belle petite page, et il décrit justement... cette célébration matinale. Et lui, en tant que poète, il est simplement le témoin. Il marche dans la campagne, dans le petit bois qui est à côté de chez lui, dans le jardin public minable probablement, mais enfin bon, ça devient un monde transfiguré. Et il marche, et tout en marchant, il voit les pierres qui se mettent à briller, la lumière qui apparaît sur les arbres, etc. Pardon, je ne vais pas vous faire tout le poème, mais vous le lirez si vous avez le temps. Et donc, lui, en tant qu'être humain, il est là simplement pour attester une célébration qui a commencé avant même qu'il ne se lève. Donc, c'est assez important, ça veut dire que la liturgie, même pour nous, si on va parler de la liturgie humaine, ecclésiale, parce qu'on va arriver à en parler quand même, ça vient un petit peu après, si vous voulez, d'un processus qui est déjà commencé et dans lequel nous intégrons pour l'attester, pour en témoigner, et pour le développer, le magnifier, mais qu'est-ce que vous voulez, les plantes n'ont pas attendu que nous soyons là pour pousser, ne sommes pas ridicules. Même si on dit que effectivement Dieu fait arriver l'être humain après toutes les créatures pour en fait, mais ça on va venir, pour le mettre au centre du monde, lui donner la responsabilité de toute la créature, être l'intendant de la création, ça va venir, c'est sûr, être prêtre de la création, tout ce que vous voulez, n'empêche que le sacerdoce consiste justement à venir après et à offrir à Dieu des choses qui sont déjà là, oui. Et effectivement, dans l'activité sacerdotale qui est celle de l'Église, nous offrons à Dieu des créatures qui n'ont pas attendu que nous nous levions pour exister. Elles existent déjà. Simplement, le pain et le vin, par exemple, c'est nous qui les avons fait pousser. Mais enfin, avant même que les hommes sachent planter le blé, et je suis sûr qu'ils poussaient déjà. Vous voyez? Bien avant. Avant qu'on ait planté de la vigne existait, nous ne l'avons pas créée, nous ne l'avons pas inventée, la vigne, nous l'avons cultivée, c'est tout à fait différent. Donc ici, il y a donc cette antériorité de la liturgie cosmique, ça c'est vraiment très important. Et alors, ici, il y a un texte de l'archevêque Job, notre jeune archevêque, qui reprend bien ça. En fait, ici, il fait appel à des textes de Saint Jean Chrysostome qui commentent cela. En fait, les pères anciens étaient très sensibles à ça. C'est, on est là à nous parler de l'écologie, comme si on avait inventé ça au XXIe siècle. Alors, les pères anciens, les chrétiens, les juifs antiques, ils étaient tout à fait conscients de cette beauté, sainteté, sagesse de la création. Donc, s'ils ne sont pas ridicules. Mais prenons bien la... Alors, justement, oui, c'est intéressant. Saint Chrysostome dit ça, il dit les créatures de Dieu ont été créées, entre guillemets, tellement bonnes qu'elles publient à jamais la gloire de leur Créateur et qu'elles excitent à le louer celui qui les contemple. Ça, c'est une base pour la liturgie. Elles publient à jamais la gloire de leur Créateur, première chose. Et elles excitent à le louer celui qui les contemple. C'est-à-dire qu'elles éveillent chez l'être humain un processus liturgique fondamental qui est la louange. C'est intéressant. Alors, et l'archevêque Monseigneur Job commente, c'est intéressant ce qu'il dit, justement, par exemple, on lui dit la même chose. Il dit autrement dit, c'est Monseigneur Job qui écrit là, l'ordre remarquable du cosmos tout entier, de l'infime dimension microscopique des cellules à la grandeur insondable des galaxies, témoigne de la grandeur et de la sagesse du Créateur, auquel la création, alors écoutez-moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, par son existence même, rend un culte. Par son existence même. La composition d'un atome, si vous vous intéressez à la chimie, à ce qu'on voit au microscope, c'est étonnant. C'est, rien que de regarder ça, déjà, c'est par son existence même, rend un culte au Créateur. Bon, alors après ça, bien sûr, les Saint Jean Chrysostome a commenté les psaumes, vous voyez les fameux psaumes 148, louez le Seigneur Dieu des cieux, louez-le dans les hauteurs, louez-le tous ses anges, tous ces psaumes laudiques que nous disons à la fin des matines, dans la partie des matines qui s'appelle les laudes. En fait, c'est une partie de l'office des matines, c'est pas un office distinct. Mais souvent, on en parle comme si c'était un office autonome. Dans l'office occidental, l'office des laudes est vraiment distinct. Mais dans tous les offices chrétiens traditionnels, ça vient du judaïsme, c'est d'ailleurs. C'est le prélève de Klimov qui le montre très bien. Dans tous les offices chrétiens traditionnels, il y a cette partie-là des laudes. C'est bien de la synagogue, c'est très simple. Voilà, et également, il y a un autre texte très connu pour ça, qui est le cantique des créatures dans le livre de Daniel. Hein, qu'on chante aussi dans tous les offices chrétiens traditionnels, ça j'ai trouvé ça. Il n'y a pas d'Orient et d'Occident, ça veut rien dire. Vous voyez, on retrouve les mêmes éléments fondamentaux partout parce qu'ils viennent du judaïsme. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Soleil et lune, bénissez le Seigneur, étoiles du ciel, toute pluie, même la pluie. Hein. Pourtant, ici, en Ile-de-France, c'est pas un problème, il pleut tellement que vraiment Dieu est content. Hein. Si la pluie loue le Seigneur, on fait que ça. Hein. Surtout ces temps-ci. Bon, et puis ça continue, c'est Daniel 3, chapitre 3, versets 62 et 82. Bon, alors, donc ça c'est vraiment un élément très important, on pourra y revenir à l'occasion si vous voulez. Ensuite, dans ce contexte-là, j'avais pas oublié mais qu'il faut le noter, j'ai pas le temps de le développer plus, mais notez-le en passant, notez-le, c'est que la dimension cosmologique de la liturgie, ou le motif cosmologique, ou la base cosmologique pour la liturgie, elle inclut beaucoup, tout de même, la dimension angélique de la création. Et c'est très très important parce que, vous savez très bien qu'on retrouve dans toutes les liturgies traditionnelles, C'est aussi une des pierres d'achoppement, c'est quand nous discutons avec nos amis non orthodoxes de nos jours sur la liturgie, ben c'est vraiment une des pierres d'achoppement, c'est que nos contemporains, pour simplifier, pour se rapprocher de l'homme d'aujourd'hui, etc., ont tendance à gommer cette dimension angélique. Or, cette dimension angélique, dans le culte juif, sémitique, et donc chez nous, parce que nos judaïsmes, c'est nous, hein, c'est extrêmement important. Donc là, et la dimension angélique, ça appartient à la dimension cosmologique, parce que les anges sont des créatures, d'accord. Ensuite, il y a un deuxième motif. En fait, ça, soyez patients, parce qu'il y en a 1, 2, 3, 5, 6, 7, presque 8, mais donc c'est pas grave. Hein. Il y a un motif aussi très très important du culte liturgique qui fait que, c'est pas que nous le défendions, si vous voulez, mais je sais pas s'il faut défendre la liturgie. Est-ce que c'est ça que je suis en train de faire? Non, je crois que je suis plutôt en train de défendre l'être humain. Parce que je pense que si l'être humain, et si la création elle-même et les animaux étaient privés de la vie liturgique, c'est-à-dire s'il n'y avait plus du tout de possibilité ou plus aucun intérêt pour la vie liturgique sur la planète, ce serait un appauvrissement considérable. Ce serait une perte de conscience grave chez l'être humain. Ça voudrait dire que l'être humain est dans un état de décérébration avancée. Bon, il y aura peut-être encore des poètes quand même, il y aura peut-être des peintres, je sais pas. Qui serait témoin de tout cela si on arrêtait de célébrer? Oui, je pense que c'est grave. Je crois qu'il y a un danger, l'amputation de la dimension liturgique de la culture représente pour l'humanité un danger grave, grave, grave. Si vous voulez, de déshumanisation. Parce que un monde où il n'y aura plus de célébration, ce sera un monde où les hommes seront au fond plus tellement des hommes, vous voyez, il y a une... On va y venir à cette question-là, c'est assez important, ça. Parce que ça veut dire que l'être humain ne serait plus dans la position de reconnaître ce que je viens de dire là, c'est-à-dire cette merveille absolument de la sagesse de Dieu dans ses créatures. Vous savez, je pense souvent à ça, parce que vous savez, moi je parle beaucoup de ce que je vis, les livres c'est bien, mais c'est l'expérience, c'est vraiment intéressant. J'étais une fois assez souvent sur l'autoroute, ça m'arrive comme à d'autres personnes, et je me suis trouvé une fois bloqué dans un embouteillage un dimanche soir. C'est ma faute, j'avais qu'à rentrer avant ou plus tard, hein, tant pis pour moi. Mais c'était un moment très intéressant, parce qu'il y avait un coucher de soleil, mais magnifique absolument. Magnifique, magnifique. Donc on était en panne sur l'autoroute, mais ça n'avait aucune importance. C'est une telle beauté de voir ça, surtout de contempler une image qui ne reviendrait jamais. Ça, parce que jamais, cette image-là n'a eu lieu, et jamais, elle se reproduira. Statistiquement, c'est impossible. Mathématiquement, c'est impossible que le même coucher de soleil se reproduise. Impossible. Bon, donc c'est unique. Et là, si tu n'es pas en panne sur l'autoroute, tu te gares sur le côté, sur une aire de repos, n'importe quoi, tu coupes le moteur, et tu regardes ça. Et tu rends grâce à Dieu et tu commences à fonctionner liturgiquement, quand même. Or, à ma grande tristesse, j'étais à côté d'autres voitures, et dans les autres voitures, qu'est-ce qui se passait? Je regardais, je disais à Pascaline, tiens, est-ce que les gens regardent ça? Rien du tout. Les enfants étaient derrière, ils jouaient avec leurs petits jeux, d'autres avaient une télévision sur le dossier, et personne ne regardait, vous voyez. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun émerveillement. Et il m'est arrivé une autre fois, je me rappelle le soir, c'était quand j'étais professeur, quelqu'un m'avait donné une orange. Et je dis mais aux élèves, je prends ce fruit que quelqu'un m'avait donné, je ne sais pas pourquoi, et je leur ai dit, vous avez vu ça, c'est extraordinaire, regarde. Et les élèves se sont regardés entre eux, ils disaient, mais complètement malade le prof, hein. Complètement malade, alors là, il faut qu'il arrête, hein. Encore quand je dis malade, j'ai employé un mot plus grossier, évidemment. Ils se sont dit, là, vraiment, ça va pas du tout. Or, j'étais en train de m'émerveiller de la beauté du monde, vous voyez. Donc, c'est-à-dire, il y a quand même un péril grave, et c'est ça, la vie liturgique. La vie liturgique, c'est pas les petits rites qu'on fait, qu'il faut faire tous les dimanches pour être des bons orthodoxes, vous voyez. C'est autre chose. C'est une relation au monde, qui est une relation de témoignage, une relation de louange, d'action de grâce, de témoignage et d'action de grâce. C'est une conscience. quand on s'émerveille plus du visage des enfants, du visage des femmes, du visage des... Et justement, c'est dans cette revue qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est assez intéressant, c'est frère, alias frère Jean, frère Père Gérassime maintenant. Oui, regardez ça. Il donne des très belles photos. Il a dit une belle photo de Villard, par exemple. C'est Villard de Moineau, c'est un moine qui était très, très, très âgé, mais qui a vraiment une bonne tête, quand même. Bon. Et quand je dis, quand on n'est plus capable de s'émerveiller de la beauté d'un vieillard, ou de la beauté d'un enfant, ou de la beauté du monde, d'une fleur, d'une orange, on est en très, très grand danger, vous voyez. Et c'est un peu ce qui peut se passer si la vie liturgique nous était retirée, ou si nous en perdions la grâce. Et c'est ce qui nous arrive quand nous célébrons mal. Hein. Parce qu'il y a aussi des façons de célébrer la liturgie qui sont anti-liturgiques, vous voyez, qui sont totalement privées de tout émerveillement, qui sont complètement formalistes et mécaniques. Faire très très attention, hein. Je vois déjà pour moi-même, je vois moi-même, si je ne fais pas attention à moi-même, je fais le signe de croix mécaniquement, je ne sais même plus ce que c'est de faire le signe de la croix, je me prosterne devant les icônes sans même les regarder, je fais un bisou à l'évangile parce qu'on m'a dit de le faire, mais sans me rendre compte que c'est l'évangile que je fais le bisou, vous voyez, c'est-à-dire que je suis en chute libre d'un état de décomposition spirituelle grave, parce que je ne m'émerveille plus. Et si je sors mon chien en forêt, que je ne m'émerveille pas. L'autre jour, justement, c'est très intéressant. Si vous n'avez pas de chien, je vous conseille fortement d'en avoir un, c'est très intéressant. Un appartement, oui. Moi, j'ai le privilège d'habiter en banlieue. Et donc, l'autre jour, je promenais le chien, en priant, tout ça, machin. Et je rencontre des voisins, je ne connaissais pas tellement, je crois que c'est des gens qui sont des peintres. Ils étaient là, ils se promenaient, et ils avaient vraiment une lumière dans le visage. Et en fait, alors, on a discuté, on a parlé du chien, et en fait, ils étaient là, ils étaient en train de regarder la beauté de la forêt. C'était très impressionnant. Donc il y a encore des gens sur Terre, et ça c'est des gens qui sont, alors ils croient ni à Dieu, ni à diable, hein, c'est pas autant que je sache. C'est-à-dire la question n'est pas vraiment là, si vous voulez, vous pouvez savoir, est-ce que l'être humain a une capacité de en se promenant le matin, en promenant son chien, ou les chats ça se promène moins, quand même, les chiens plutôt, oui, de s'arrêter et de voir la lumière qui filtre à travers les branches, et de dire aux enfants, regardez les enfants comme c'est beau, regardez. C'est quand même très très important, et c'est ça la question du salut. Je sais que moi j'ai beaucoup parlé de ça avec le père Stanilo, il est un homme très 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 sage. Il disait qu'en fait le salut, c'est ça, c'est cette joie. Tant que tu as la joie d'euphorie spirituelle, de t'émerveiller, de rendre grâce à Dieu, ton âme est vivante, et tu peux espérer dans le salut. Mais dès que quelqu'un va commencer à ne plus être capable de cette dynamisme intérieur, cet enthousiasme, voilà, il est en état de mort prochaine. Bon, voilà. Alors oui, donc je disais que le deuxième motif de tout ça, c'est l'incarnation, en fait. C'est que dans un monde qui est ce qu'il est, cette création qui est vraiment sublime, moi j'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est vraiment la base, je pense, pour la vie liturgique, dans ce monde-là est présent le Créateur. Et il n'est pas présent comme un observateur, comme quelqu'un d'extérieur, ou seulement quelqu'un qui s'émerveille de sa créature, ce qui est déjà formidable comme il était dans les chapitres de la Genèse, mais il est présent comme l'un d'entre nous, et il est présent comme celui qui assume tout ça, toute cette réalité, dans sa personne. Bon, c'est un peu compliqué, ça va être aussi des mots, peut-être que c'est plus la propédeutique d'employer ces mots-là. Bon. C'est qu'on dit que le Christ, par l'incarnation, il a hypostasié, pardon pour le gros mot, il hypostasie alors quoi, la nature humaine, mais il hypostasie aussi l'ensemble de la création. Il y a une dimension cosmique de l'incarnation, c'est très très important ça. Très très important. Pourquoi? Parce que ça se fait simplement par le... C'est une, je ne sais pas comment dire, c'est presque du bon sens. Et dans la mesure où l'être humain est lui-même fait des éléments de la création, Et il est évident que si le Christ assume la nature humaine dans son ensemble, il assume aussi les éléments dont elle est composée. C'est pas plus compliqué que ça. Tous les éléments de la création qui entrent dans la composition du corps humain, par exemple, elles sont assumées par l'intermédiaire de l'homme dont le Christ s'est fait la tête en se faisant homme. Je sais pas si je m'exprime bien, mais... Donc c'est pas... le Christ n'est pas l'hypostase de la création en elle-même, si vous voulez. Mais il est l'hypostase de la création parce qu'il est l'hypostase de l'homme qui lui-même est l'élément synthétique de la création. Et alors, le Christ dans la création, il y est pas pour rester oisif. Il y est principalement, ça c'est la première dignité du Christ, il y est comme pontife suprême, il y est comme célébrant. Le Christ a été essentiellement, est et a été et sera un célébrant. Il est le pontife, il est celui qui offre au Père ce qui vient du Père. C'est ce qu'on voit dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 17, hein, par exemple. C'est très très typique, c'est-à-dire que la position du Verbe incarné est une position sacerdotale, donc liturgique. Ça ne veut pas dire qu'il accomplisse des rites, mais on le voit dans sa façon de traiter les éléments. Il prend de la boue pour refaire la vue d'un aveugle, il multiplie des pains et des poissons, il touche quelqu'un, il touche un cercueil. Il a une relation avec les créatures qui est absolument fantastique, qui n'est pas de type magique, hein, faut faire attention, hein, mais elle est liée au fait qu'il est le créateur incarné, présent dans son monde, et qui active continuellement les énergies présentes dans ces créatures. Et donc il a constamment une activité sacerdotale, même s'il n'est pas dans le temple, vous voyez. L'activité liturgique ou sacerdotale, elle n'est pas confinée au monde du temple, si vous voulez. C'est beaucoup plus vaste que ça. Le Christ, quand il a multiplié les pains et les poissons avec la foule, c'est une activité sacerdotale extraordinaire, vous voyez. Ce n'était pas l'Eucharistie, hein. Ce n'était pas, on ne confond pas. Mais c'était quand même une activité de type sacerdotale parce qu'il a multiplié. Il a multiplié, il a magnifié les créatures à ce moment-là, et dans le cadre de la prière, ayant prié le Père Céleste. Bon, il y a des quantités d'exemples qui nous montrent ça. À plus forte raison, quand il a été sur la croix, vous savez très bien qu'il avait une activité sacerdotale extraordinaire, puisqu'il récitait les psaumes, il était lui-même à prier pour le monde, à prier pour ses ennemis, donc et pourtant c'était pas un rite, la croix, c'était un truc infâme, horrible, bien pire que ce qu'on pense, parce que nous on voit des croix, vous savez qu'elles sont encore pas mal dans nos églises, elles sont de couleur, etc., c'est des jolies croix qu'on comporte, mais c'était pas ça la croix, c'était un gibet absolument infect, hein, sur lequel on attachait les types et on les battait jusqu'à ce qu'ils meurent comme des chiens, c'est tout. En plus, ce qu'ont fait les Syriens, c'est-à-dire que si vous avez Facebook, vous regardez ce qu'on a fait en Syrie aux chrétiens, ben c'est à peu près ça, vous voyez. C'est pas beau, hein. C'est abominable, abominable, abominable. Moi, j'ai regardé juste un peu, j'ai vu que c'était éteint, ben je peux pas voir la suite. C'est absolument abominable. Donc, c'était pas quelque chose de ritualisé du tout. N'empêche que c'était un moment sacerdotal et liturgique absolument extraordinaire. Absolument extraordinaire. Vous voyez, la liturgie n'est pas forcément, comprimée et enfermé dans le rite. Le rite est un élément de la liturgie, on va y revenir, c'est très important le rite. Mais le rite n'est pas là. Et c'est important, ça, faut peut-être noter ça quand même. Le rite n'épuise pas la réalité liturgique. C'est ça que je serais essayé de dire, oui. La réalité liturgique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus inclusif, et qui n'est pas forcément codifié, qui n'est pas forcément enfermé dans un type icône. Une maman qui bénit son enfant qui part à l'école, si ça se fait à la maison, comme ça, tout simplement, sur le pas de la porte. Moi, c'est pour ça que je suis pas du tout de ceux, je suis par exemple en désaccord avec cette revue, parce qu'elle parle d'art sacré. Je trouve ça absolument antichrétien. Je lui ai écrit au père Gérassime, je dis antichrétien ce que vous dites là. Pour nous, les chrétiens, ça n'existe absolument pas. La division entre sacré et profane, c'est une vision complètement païenne du monde. Mais ça fait longtemps que ça n'existe plus. Ça fait 2000 ans que la distinction sacré-profane n'existe plus. Parce que Dieu s'est incarné. Donc donc je suis tout à fait en opposition avec ce garçon qui est charmant par ailleurs. C'est un très bon prêtre, meilleur que moi. C'est pas ça le problème, si vous voulez. Mais, c'est pas un problème de sacré et de profane. Il n'y a pas de profane. Il n'y a pas de profane. Ça ne veut rien dire, ça, vous voyez. Il y avait du profane, c'était chez les Grecs ou des gens comme ça, si vous voulez. Mais là, c'était avant l'incarnation, mais il n'y a pas de profane. Il y a simplement, une intensité plus ou moins grande de la sanctification et de la présence de Dieu dans son monde. Mais je me rappelle des années où on avait été avec des amis, on était en vacances avec des amis sur des îles anglo-normandes, à Jersey, je crois. Et puis, on était sur la plage, il était 7h du soir, on dit, tiens, si on disait les vêpres. Bah oui, il n'y avait pas d'église hein, du tout. Bah, c'était 7h du soir, sur un bord de mer. On n'avait pas de bouquin, on n'avait pas de partition, on avait juste ce qu'on savait par cœur. On a chanté les vêpres, voilà, face au soleil qui se couchait. C'était pas le bon sens, d'ailleurs, parce qu'en principe, on célèbre plutôt face au soleil levant. Enfin bon, pardon, c'est enregistré. Tant pis, ce jour-là, on s'est trompé, on était dans le mauvais sens. Enfin, on était face à la beauté de la création, on va dire. Bon. Mais, vous voyez, c'est ça la vie liturgique naturelle. Il est naturel à l'être humain d'être dans une activité liturgique. C'est une activité naturelle, la vie liturgique. C'est même pas culturel, vous voyez. C'est intéressant parce que c'est très compliqué ça aussi maintenant. La relation entre culture et nature, ou culture et culte, c'est pas ce qu'on croit, vous voyez. On a tendance, je vois nos amis, surtout en France, un pays très sécularisé, pas toujours, mais quelquefois très hostile à la religion, pas toujours, mais quelquefois dans certaines zones, on voit très bien qu'ils essayent de nous ranger, nous, dans le culturel. On voit ça avec nos associations, par exemple. On appelle nos associations des associations culturelles. À tous les coups, à la mairie, ils se trompent et ils nous mettent associations culturelles. C'est-à-dire que dans leur tête, la religion, c'est du culturel. Mais ils pensent comme ça, je ne reproche pas, chacun ses défauts. Mais ça, c'est très très grave, si vous voulez, parce que c'est faux. C'est faux. La religion, c'est pas culturel, c'est naturel. Et ça, c'est pas moi qui dis ça, parce que je me permettrai pas de dire une chose aussi audacieuse. C'est Père Raphaël Noïka. Il dit ça, quelqu'un lui dit, mais c'est un homme qui a beaucoup d'humour, et très 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 charmant, très très gentil, et avec un sourire, il a dit ça. On dit, qu'est-ce que c'est l'orthodoxie, machin, etc. On pensait qu'il allait faire un exposé, ça m'en savant. Il a dit, non, l'orthodoxie, c'est la religion naturelle. C'est la religion naturelle. C'est la religion d'Adam au paradis. Ce qui paraît extraordinaire, de dire une chose comme ça. Ça veut dire qu'Adam au paradis était déjà dans cette activité liturgique. À mon avis, pas en plénitude quand même. Hein. Je pense que la plénitude de la vie liturgique et de la vie naturelle, justement, est donnée par le Christ. Alors, c'était peut-être pas la peine que le Verbe se dérange pour venir de là-haut, devenir homme s'il n'y avait rien vraiment de nouveau à apporter. En fait, Saint Maxime le Confesseur le dit très bien, ça c'est qu'en fait le Christ est venu accomplir tout ce qui est contenu dans le premier Adam. Et donc c'est vraiment à partir de l'incarnation, c'est de ça que je parle, que les bases, si vous voulez, pour la conscience liturgique de l'être humain, même naturelle, hein, sont posées. Alors ensuite, donc, si on pourrait développer ça, c'est peut-être des thèmes à reprendre. Hein. Ensuite, il y a aussi un motif, je dirais un motif anthropologique qui est très important. Un motif anthropologique qui est lié, si vous voulez, à la façon dont nous sommes créés. De tout autant que nous sommes très très nombreux autour de cette table, et là, plus les personnes invisiblement présentes auxquelles je fais allusion toujours. Il y a des gens qui ont envoyé des messages, je ne sais pas si je peux les prendre. Qu'est-ce que c'est que ce motif anthropologique de la liturgie? C'est qu'il y a dans la constitution de l'être humain, telle qu'elle apparaît dans les livres de la Genèse, une dimension, un donné qui est une des bases, au fond, de l'activité liturgique. Et ce donné, il est, c'est assez complexe, si vous voulez, mais pour simplifier un petit peu, il est premièrement le fait que le sceau de l'image imprimée en l'homme est un sceau trinitaire. Donc déjà, l'être humain, par constitution, n'est pas un individu isolé, mais est un être qui est constitué pour fonctionner communautairement avec les autres. C'est-à-dire qu'on va retrouver, et on retrouve ça beaucoup dans la vie liturgique, qui est une activité de prière communautaire, où on célèbre ensemble, on concélèbre. Donc la possibilité pour l'être humain d'être un concélébrant, elle est donnée dans la structure même de l'image trinitaire qui est en lui. C'est pour ça qu'on a, je ne sais pas si je le dirai ailleurs, mais je le dis déjà ici, on a beaucoup dans la liturgie ce qu'on appelle des invitatoires, hein. C'est-à-dire que ça vient des psaumes, d'ailleurs, où on dit, c'est le président de la célébration qui doit le dire, d'ailleurs, à ce moment-là, venez, célébrons le Seigneur, bien, venez, adorons et prosternons-nous, on a ça avant les psaumes, on l'a à l'entrée de l'évangile, ben, du Christ, dans la liturgie, venez, ce n'est que l'homme, si c'est que l'homme, la Christos, nous est au nostro, etc. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle un invitatoire. Alors, l'invitatoire est très très présent, et justement, et Saint Jean Chrysostome dit ça aussi dans, c'est sur les homélies sur les psaumes. Intéressant. J'ai trouvé ça, la référence de Saint Jean Chrysostome. Note 4. Explication du psaume 148. Il dit ça, il dit, c'est la coutume des saints, à cause de leur profonde reconnaissance, de convoquer un grand nombre d'autres cœurs, quand ils vont, cœurs, C-O-E-U-R-S, hein, quand ils vont bénir la miséricorde et célébrer les louanges de Dieu, pour les engager à partager avec eux ce glorieux office. C'est ce que firent les trois enfants dans la fournaise, ils invitaient toutes les créatures à célébrer le bienfait qu'ils avaient reçu, à rendre gloire au Seigneur. Donc, cette convocation, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que l'activité sacerdotale et liturgique de l'être humain, vous voyez, elle est principalement une activité d'abord une invitation de convocation, d'invitation des autres humains, mais aussi des autres créatures à célébrer le Seigneur. Et c'est très 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 important, l'invitatoire dans la liturgie eucharistique, dans les offices, c'est vraiment, dans les offices aussi bien occidentaux qu'orientaux, comme on dit, dans tous les offices traditionnels chrétiens, l'invitatoire a une place très 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 importante. Très importante. C'est un moment vraiment très très beau. Or ça vient justement de l'image trinitaire qui est en nous, qui est que je ne peux pas prier seul, je ne peux pas célébrer seul. Je demande à tous les autres. Moi je me rappelle quand j'étais gamin, parce que j'étais comme disait que moi aussi j'étais enfant, etc. Comme disait l'autre. Et quand j'étais gamin, je me rappelle très bien, j'avais 12 ans par exemple, et j'étais très attiré par le Christ. Je trouvais que le Christ était quelqu'un d'extraordinaire. J'ai toujours pensé ça, je le pense toujours d'ailleurs. Et donc, j'ai essayé de trouver parmi mes camarades de classe, des quelques camarades qui auraient été intéressés par le sujet aussi, et j'ai essayé de les inviter à prier aussi. Venez, on va dire une prière. En fait, ça les intéressait pas beaucoup. Ça les intéressait pas beaucoup. Il n'y avait pas de jeux vidéo à l'époque, mais il y avait d'autres distractions. Et donc, ça les intéressait pas beaucoup. Mais je me rappelle, j'ai vu des enfants, peut-être moi-même, je me souviens plus, des enfants qui, dans un jardin, par exemple, chercher les autres enfants pour faire un petit hôtel ou pour enterrer un oiseau mort. Et on voit ça dans un film qui s'appelle Jeux interdits. Je sais pas si vous avez vu. Un très beau film. On voit les enfants qui, à deux ou trois, ils se rassemblent pour aller enterrer pourquoi un hérisson ou le chat de la voisine, enfin bon, pour en fait avoir une activité liturgique, mais qui ne devrait pas le faire seul, ils vont chercher d'autres pour le faire avec. Voyez. Ça c'est très très typique ça. Et la liturgie est ce moment où, bon bien sûr c'est Dieu qui nous appelle, mais nous aussi, oui nous nous rassemblons, nous essayons de faire que nos enfants viennent à l'église avec nous, même quand ils veulent pas trop. Enfin bon, on fait des efforts pour que la famille vienne ensemble. Vous voyez cette convocation. Nous sommes convoqués par Dieu, parce que l'Église, ça c'est une convocation de l'Assemblée, mais nous nous convoquons aussi les uns les autres. Ensuite, il y a une autre dimension anthropologique très importante, c'est le fait que l'être humain, donc, ça vous le savez très bien, l'être humain a reçu de Dieu, et c'était inclus dans l'image, dans le sceau de l'image, la capacité de la parole. Et donc ça c'est très important, c'est qu'il y a un fondement liturgique de base qui est ce que Père Stanislaw appelle le dialogue. Parce que la parole telle qu'elle s'exerce chez l'être humain n'est pas du tout une parole monologue. Elle l'est quelquefois, mais ça c'est dans le pire des cas. Le monologue est une situation désastreuse. On voit ça dans les pièces de Molière, quand vraiment ça se passe très très mal, les personnages qui parlent tout seuls. Par exemple, l'avare, dans la pièce qui porte ce nom, des gens qui sont dans un très 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 mauvais état, vous voyez, ou dans les hôpitaux. Moi, je vais beaucoup dans les, comme je disais à mes élèves, j'ai beaucoup été en hôpital psychiatrique, alors mes élèves me regardaient avec des yeux ronds, pensaient qu'ils avaient affaire à un fou, mais en fait, non, j'étais beaucoup dans des hôpitaux comme ça pour voir des amis. Or, les personnes qui sont en grande pathologie de l'âme sont dans le monologue, généralement. C'est un état de dégradation de la conscience. C'est une grande, grande, grande souffrance, d'ailleurs. Donc, mais c'est pas l'état naturel. L'état naturel, c'est le dialogue. dialogue. Et la liturgie, justement, est essentiellement une activité dialogique, si vous voulez, ou dialogante, de Dieu et de l'homme, où l'homme parle à Dieu, Dieu parle à l'homme, Dieu renvoie à Dieu les paroles qui viennent de lui. N'arrêtons pas de faire ça, cette espèce d'échange continuel, c'est un espèce de jeu de tennis, on se renvoie la balle continuellement, Dieu et nous, au sujet du monde, au sujet de nous-mêmes, au sujet de lui, et pas tout ce qu'on dit à Dieu tout le temps, on n'arrête pas de lui dire des tas de choses extraordinaires, qui concernent généralement soit lui, soit nous, soit le monde. C'est à peu près le contenu de notre conversation avec Dieu, mais c'est une conversation. Alors la conversation, elle prend sa forme la plus forte dans la liturgie. Parce que la liturgie est en fait, si vous voulez, un développement de ce dialogue initial paradisiaque que nous connaissons par la Bible. Mais ce sont les racines sont là. Et puis il y a encore un autre élément anthropologique qui est très important, c'est ce fameux souffle de vie. Vous savez qu'il est dit que Dieu a soufflé de son souffle dans le visage d'Adam. C'est-à-dire qu'il est entré en l'être humain, il y a une participation aux énergies divines, pas tout de suite à la plénitude du Saint-Esprit, c'est pour ça qu'on pourra attendre la Pentecôte quand même, mais dès l'origine, il y a une participation aux énergies divines, aux énergies incréées, et ça crée ce que Saint Grégoire de Nice appelle une affinité avec Dieu. Donc l'être humain, si vous voulez, il a une connivence, comme on dit en français, une connivence, une affinité, une complicité, une coïncidence avec Dieu. Il a quelque chose avec Dieu qui est comme l'apôtre Pierre, nous sommes de sa race. Nous sommes de la race de Dieu, quelque part. Ça paraît bizarre, vous voyez. C'est assez étonnant, ça, que l'être humain... Moi, c'est là, si vous voulez, que les différentes formes, genre évolutionnisme et autres, ne sont pas des théories très intéressantes, parce qu'elles ne rendent pas compte de la réalité complètement. Vous voyez, ce sont des théories qui ont fait leur chemin, qui sont un peu usées maintenant, d'ailleurs, bon, mais qui, en tout cas, si vous voulez, ne décrivent pas la réalité d'une manière satisfaisante. La réalité est que l'être humain a, avec le divin, une affinité naturelle tout à fait extraordinaire, à cause de ce... Or, ça veut dire que la célébration liturgique, c'est une célébration entre personnes de la même famille, de la même race. Surtout, il s'agit de baptiser. Et que le baptême, alors ça, le baptême, c'est une chose extraordinaire, le baptême est une affiliation au Père, est un don du Saint-Esprit, mais en plénitude, donc c'est encore beaucoup plus que ce don initial des énergies divines. Mais en tout cas, dès le paradis, dès l'origine, dès la création, l'être humain, on peut dire qu'il a une capacité liturgique naturelle, hein, parce qu'il a cette affinité avec Dieu, il y a du Dieu en lui, et du Dieu en lui par les énergies. Non pas une parcelle de la divinité, comme dit les gnostiques, mais c'est beaucoup plus intéressant que ça. Les énergies divines dessous, ça passe dans l'ensemble du corps, ça irradie tout le corps. Tout l'organisme humain est irradié par les énergies divines, appelées souffle dans la Genèse. Et ça c'est la base, si vous voulez, de l'exultation. Quand la Mère de Dieu, qui est un personnage liturgique, s'il en fut, vraiment, quand elle dit « Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit ravi de joie en Dieu mon Sauveur », etc., c'est un poème extraordinaire, eh bien ça c'est le signe du Saint-Esprit chez elle. L'exultation, l'euuphorie, l'enthousiasme, l'inspiration dans la prière et dans la prière liturgique, ça c'est tout à fait typique, si vous voulez, de la grâce du Saint-Esprit. Donc, mais ça c'est dès le départ, vous voyez, c'est pour dire que, c'est mon propos au fond depuis le début, que les motifs de la vie liturgique sont des motifs naturels. La liturgie n'est pas quelque chose qui a été ajouté à l'humanité en plus, pas culturel, c'est naturel. Ou bien, si vous préférez, le culte, ce qu'on appelle le culturel, c'est un développement de la nature. Oui, mais c'est pas surajouté. Ça, je pense que c'est ça qui est le plus important, si vous voulez, c'est de dire, la vie cultuelle et la vie liturgique n'est pas une dimension rapportée, artificielle, dont l'être humain pourrait à la limite se passer. Non. J'ai oublié de dire devant micro et devant vous qu'un être humain qui n'a pas qui ne peut pas, pour une raison ou pour une autre, avoir une activité liturgique du tout, est un être humain qui est amputé d'une dimension fondamentale de son humanité. Hein, on est moins homme quand on n'est pas du tout. Mais comme je vous disais tout à l'heure, la vie liturgique, ça consiste déjà à s'émerveiller du soleil couchant sur l'autoroute, donc tout le monde a sa chance aussi. Hein. Mais il doit y avoir ça, il doit y avoir ça. Genre, maman, comme c'est beau. Vous voyez, un gamin dans la voiture qui dit, maman, j'ai vu comme c'est beau. C'est extraordinaire. Là, voilà, on voit la racine de la vie liturgique. Je ne sais pas quelle heure il est, mais je pense que je vais arriver à tous mes points. Bon, et donc je vous ai parlé de l'image trinitaire, les arts de l'esprit, cette affinité avec Dieu et l'affiliation au Père dont parle Saint Jean l'évangéliste. Il faut bien insister là-dessus. Ah, mais si, j'ai un peu de temps encore. Saint Paul parle d'adoption. J'aime beaucoup Saint Paul, c'est un grand, grand personnage, un homme très, très humble, un très grand théologien mystique, vraiment admirable, malgré les passages qui nous fâchent dans certains de ses épîtres, mais que nous lui pardonnons pour la circonstance. Enfin, en dehors de quelques passages vraiment désagréables, Saint Paul est un très, 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 très grand chrétien, magnifique, 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 un homme très enthousiaste, une vraie expérience de Dieu, tellement surdoué absolument de la théologie, quoi. Très, vraiment très, très grand. Or, il dit quelque chose qui n'est pas très intéressant. Parce qu'il parle d'adoption. Il dit beaucoup ça dans ses épîtres, je ne sais plus dans quel passage, mais plusieurs fois. Il parle d'adoption. Il dit le baptême, c'est une adoption, adoption, adoption. Ben, ce n'est pas très intéressant. L'adoption, c'est une notion juridique dans l'Antiquité. Ce serait bien, hein. Je suis tout à fait pour l'adoption. Il y a des enfants, des gens qui n'ont pas d'enfants, ils sont bien contents d'en adopter. Ce n'est pas ça le problème. Mais ce n'est pas très intéressant. Ce que dit Saint Jean dans le prologue est beaucoup plus intéressant. Parce que Saint Jean, dans le prologue, ne parle pas d'adoption, mais parle d'affiliation, de naissance d'en haut. Et dans tout l'évangile de Saint Jean, quand le Christ parle à Nicodème, par exemple, la nuit, ce pharisien, c'est un peu la trouille, il est genre à la visée de la nuit, quand tout était éteint, il venait trouver le Christ, comme ça, en cachette, pour lui parler, parce que, il avait peur des représailles des petits copains. Donc il vient trouver le Christ la nuit, et là, il y a ce dialogue absolument extraordinaire, où le Christ lui parle à Nicodème, je crois bien que c'est lui, je ne me trompe pas,
oui,
il lui parle de la naissance d'en haut. Donc c'est tout. Oui, alors c'est ça, et nous, par le baptême, nous sommes nés d'en haut. Nous ne sommes pas renés, c'est pas une répétition, c'est une naissance absolue, une nouvelle naissance absolue, une naissance pneumatique ou pneumatologique, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, enfin une naissance du Saint-Esprit. Et ça, c'est une des bases aussi quand même pour la vie liturgique, vous voyez. C'est bien pour ça que la liturgie peut être quelquefois un miracle de beauté, un miracle de transparence, quelque chose de diaphane absolument. Ça arrive quand même. Ça arrive quand même qu'une célébration liturgique de l'Église soit absolument transparente à la présence du Christ. Ça arrive. Oui, on a vu, je crois que c'est pas des saints que j'ai pas connus, je crois que l'archevêque Jean Maximovitch, par exemple, pareil, quand il célébrait, tout le monde célèbre, quand il présidait la divinitologie en tant qu'archevêque, donc pontife suprême, justement, pareil que, je crois que tu dois savoir ça mieux que moi, Hélène, donc il s'arrêtait parce qu'il voyait tout, vous voyez. On voit ça dans la vie de Saint-Martin aussi. Saint-Martin, il disait, ça arrivait plusieurs fois dans la célébration, il voyait, toute la prière devenait transparente à la réalité même de ce qui s'opérait. Moi, j'ai vu les femmes, des gens du peuple, en Roumanie en particulier, je raconte toujours cette histoire-là, je finis par fatiguer les lecteurs, mais j'ai vu une femme en Roumanie, un jour, le 15 août, pas à Secastria, mais alors, le cycle au-dessus, dans l'église au-dessus, les gens qui étaient venus pour communier le 15 août, et cette femme est venue, et quand elle s'est approchée du calice, de ses yeux ont jailli des larmes, mais vraiment, et tellement jailli, que le père Cléopas, c'était lui qui donnait la communion, il s'est retiré, en arrière, pour pas que les larmes tombent dans le calice, donc c'est vraiment un truc qui... Bon, ça veut dire, si vous voulez, qu'il y a des personnes qui soient archevêques, comme le Saint-Jean de San Francisco, ou qui soit une petite vieille affichue, comme cette dame roumaine de la campagne, ce jour-là, des personnes qui ont la capacité, si vous voulez, de percer le mur des apparences, de voir dans la transparence, ça c'est parce qu'il y a l'Esprit Saint, justement, dans l'Église, en eux. Ça s'explique, si vous voulez, par tout ce qu'on a dit auparavant, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit, la naissance d'en haut. Et donc, même si j'ai un nom baptisé, je reviens à mon exemple d'autoroute, même un nom baptisé, parce qu'il a les arts du Saint-Esprit, il n'a pas l'Esprit Saint en plénitude, je suis d'accord avec vous, il a les arts du Saint-Esprit, mais même un nom baptisé peut s'émerveiller de la beauté du coucher du soleil sur l'autoroute, c'est pas un problème. Oui. On voit très bien dans les religions, il faut voir aussi tout ce que nous sommes capables, nous les chrétiens, d'attester comme universalité dans le comportement religieux des différents peuples. Il y a des choses qui sont très 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 belles, hein, très 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 belles, vous voyez. Pourtant, ces peuples ne sont pas baptisés. D'où tire-t-il cette intuition du divin? D'où tire-t-il cette capacité de louer Dieu? C'est étonnant. Et bien justement, du fait qu'ils sont créés à l'image que l'Esprit Saint habite en eux, au moins sous la forme des énergies. Vous voyez, c'est très beau. Même tous ces athées qu'on rencontre autour de nous. Moi, je connais des écrivains, des peintres, des musiciens, des philanthropes, si vous voulez, qui ne connaissent pas Dieu vraiment, ils ne comprennent rien. Quand on leur parle de Dieu, ça leur dit rien du tout. Vous voyez, ils sont hermétiques absolument au phénomène religieux et qui ont cette conscience-là, pas seulement mais une conscience de la beauté, une conscience de l'authenticité. C'est très beau, ça. Et nous, les chrétiens, nous devons témoigner pour ces personnes-là. Vous voyez, faut pas dire tout le temps que si t'es pas baptisé, tu t'en sortiras pas. Il faut savoir dire, t'es pas baptisé, mais tu as l'image de Dieu en toi, tu as la grâce du Saint-Esprit, sinon l'Esprit Saint en plénitude chez toi. Tous ces savants, ces Einstein, ces chercheurs, ces trouveurs, ces découvreurs de vérité, c'est admirable, vous voyez. Donc on voit bien que l'image de Dieu est une réalité en l'homme. On voit bien que le souffle initial est une réalité objective en l'être humain. C'est très intéressant, c'est intéressant. Bon, donc ça c'est un motif très important. Et puis, ensuite, je ne sais pas ce qu'on a encore comme temps, un peu de... Oui, on a encore un quart d'heure. Ça va, vous ne vous fatiguez pas trop, vous n'avez pas marre. Oui, c'est un motif très intéressant, c'est le motif ecclésiologique. Ecclésiologique. C'est qu'en fait, si vous voulez, le phénomène liturgique, bon, donc j'ai dit que c'est un phénomène, c'est une réalité naturelle, je pense qu'on est une réalité anthropologique, c'est bon, tout ça. C'est aussi une réalité qui s'interprète à travers le mystère de l'Église. C'est-à-dire que c'est le mystère de l'Église qui éclaire le mystère liturgique et c'est la réalité liturgique qui éclaire le mystère de l'Église. Enfin, il y a une interaction entre le domaine liturgique et le mystère même de l'Église. Alors, pour une raison christologique, parce que l'Église est le corps du Christ, dont on vient de parler du Christ incarné, etc. Mais aussi, c'est le sens même du mot, puisqu'on est en propédeutique, on doit expliquer les mots de base. Donc le mot liturgie, vous savez, je vous rappelle, ça veut dire l'œuvre du peuple de Dieu. Ergon, tout là-haut, sous-entendu, tout fait où? L'œuvre du peuple. C'est l'œuvre du peuple. Donc c'est pas l'œuvre d'un individu pieux, religieux, sa petite prière. Moi j'entends des gens qui disent ma prière, à notre époque, c'est vrai, on est un petit peu malade de ça au XXe siècle, malade de l'individualisme, beaucoup. Alors en fait, c'est pas du tout la réalité c'est nous, même le Paul Evdokimov, qui est un très grand bonhomme, hein. Je vous recommande ça, ça s'appelle la prière de l'église d'Orient. Le titre est idiot, parce que c'est pas la prière de l'église d'Orient, c'est la prière de l'église traditionnelle et qui s'est conservé en Orient, on va dire que ça comme ça. Mais ce livre est très bien, malheureusement j'ai dans une édition ancienne, donc je ne sais pas si ça existe encore, vous le retrouverez. Et justement il explique très bien, et il explique notamment que le « je », quand on dit « je » dans l'Église, ce n'est jamais un « je », c'est jamais un « je » individuel, c'est un « je » nous. Si vous me permettez, c'est pas pour faire un jeu de mots idiot, mais c'est un jeu comme, attendez, c'est l'évêque Jean Zizioulas aussi qui parle de ça, il dit que c'est un jeu pas collégial, il a un mot pour dire ça, ça me revient plus du tout. Ah bon, je veux dire que ce jeu représente en fait une communauté. C'est d'accord que la personne qui dit je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, etc., il dit je, mais il le dit au sein de la communauté, devant la communauté, au moment du baptême par exemple. Et il le dit pour tous, il est la voix de tous qui le disent par sa voix, vous voyez, c'est très 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 important. C'est une forme du pronom personnel qui est une forme inclusive, si vous voulez, non pas exclusive, voilà, il y a des choses comme ça. Et à plus forte raison, le « nous », à plus forte raison, le « nous ». C'est intéressant que la seule prière que le Christ nous ait léguée, c'est le fameux « Notre Père ». Et « Notre Père », ben, c'est pas « mon papa qui est dans les cieux », vous voyez, c'est... Tout de suite, le Christ nous a donné ça, il nous a donné le pluriel, hein. Donnez le pluriel pour la prière, le pluriel pour la célébration et le pluriel pour l'Église. Donc nous, en tant que nous sommes l'Église, parce que nous sommes justement une communauté, nous sommes le peuple de Dieu qui a toujours existé, hein, qui remonte à la nuit des temps, qui s'est forgé avec Abraham, Moïse, etc. C'est toujours le même peuple de Dieu. J'en profite pour dire qu'il y a quand même un certain nombre de chrétiens qui sont pour affirmer la continuité d'Israël dans l'Église, et non pas la rupture ou la substitution. C'est le peuple, il n'y a qu'un peuple de Dieu, il n'y a pas 36. Hein, et ce peuple-là, nous en faisons partie par le baptême, et non pas par naissance, parce que, et par la foi principalement. D'ailleurs, je pense à ça parce que vous avez des personnes justement dans les pays ravagés par les persécutions actuellement, il y a des gens qui n'ont pas pu être baptisés, mais qui sont massacrés quand même. Bon, ben ça fait bien la peine. Oui, mais ça ne fait rien, ils confessent la foi. Vous voyez, ce sont des personnes qui n'ont pas pu être baptisées, mais qui sont quand même massacrées au nom de la foi chrétienne. Donc en fait, ils sont baptisés dans leur sang. Ça a toujours existé, c'est très important. Donc vous voyez, le mot liturgie, le mot même liturgie veut dire œuvre du peuple. Et ensuite, tout le monde sait ça, c'est dans Saint Paul, c'est dans les Actes des Apôtres, c'est partout, on parle à propos des baptisés, on parle de sacerdoce baptismal, c'est-à-dire on parle d'un peuple sacerdotal. C'est dans les épîtres de Saint-Pierre, ça. Il y a deux épîtres de Saint-Pierre qui sont très intéressantes, toutes petites, où il y a ce thème-là, ce thème du peuple sacerdotal. Et nous sommes, et ça, il faut vous le dire et le redire, parce que c'est pas une de mes obsessions. Quand il y a comme des déviations liturgiques spectaculaires, partout, dans tous les pays, c'est pas la peine d'y revenir, disons. Je pense que tout le monde a des yeux pour le voir. Et donc, on est là pour promouvoir ça, le sacerdoce baptismal. Dire à tous, nos enfants, par exemple, sont des célébrants. Pourquoi sont des célébrants? Parce qu'ils ont le baptême total, hein. Ils ont le baptême d'eau, ils ont leur chrismation et ils communient. Donc, ils sont considérés comme des concélébrants. Donc, la place de l'enfant dans l'église, c'est autre chose qu'une place occupationnelle. On va dire, ah ben, il faut les occuper pendant la liturgie parce qu'ils s'ennuient. Ça, c'est pas possible d'entendre des choses comme ça. Oui. C'est pas possible. Parce que, ou alors, on ne les baptise plus. Et si on les baptise, on les considère comme des chrétiens à part entière et comme des concélébrants. Alors, après ça, il faut trouver quel va être leur mode. Leur mode, je suis d'accord avec vous, j'entends les objections. Quel va être leur mode de concélébration? Ça, c'est à nous trouver, les parents, les catéchètes, les prêtres, etc. Bon, c'est autre chose, ça. Mais la réalité objective, c'est ça, c'est que nous sommes membres. Donc c'est ça aussi une des bases ecclésiologiques, des motifs ecclésiologiques de la liturgie. La liturgie existe, pas en elle-même en l'occurrence, mais elle existe parce qu'il y a un peuple liturge, parce qu'il y a un peuple de baptisés, il y a un peuple de prêtres, il y a un peuple sacerdotal. Et un peuple sacerdotal, et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre que de célébrer? Alors c'est pas la peine d'être un peuple sacerdotal pour rester uniquement dans la télé ou internet, je sais pas quoi, hein. C'est du temps perdu, si tu es membre des sacerdoces du Christ, ben célèbre. Hein, je dis ça, je vois des personnes qui sont très absentes, des gens que j'aime beaucoup, qui sont meilleurs que moi, c'est pareil. J'ai un peu honte de faire des remarques à des personnes qui, bon, effectivement, viennent jamais à l'église, mais sont tellement meilleurs que moi, je sais plus quoi prendre, plus quoi penser. Donc quoi, la participation à la vie d'église n'a pas forcément des fruits immédiats. Et donc cette personne, qui est vraiment une sainte personne, vraiment, je lui dis, mais tu es une célébrante, une femme, hein. Mais tu es une célébrante, célèbre. Célèbre, si tu ne célèbres pas, mais elle a jamais entendu qu'on lui dise ça, jamais elle a entendu un prêtre qui lui dise qu'elle est une célébrante, c'est ça qui est grave, vous voyez. Comme si j'avais inventé ça tout un matin, moi, c'est inouï quand même. Personne n'a jamais dit à cette fille qu'elle était une célébrante. Le mot célébrant, il est toujours employé au masculin, déjà, je vous avais remarqué. Et, oui, c'est une drôle d'habitude, hein. Et en plus, il est toujours employé pour désigner des ministères précis, pourquoi, diacre, prêtre, évêque, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre, pape, bon. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas, si vous voulez, dans notre usage du langage, déjà l'employer principalement au masculin, alors qu'il y a une version féminine du mot, et ne l'employer que pour de manière limitative, quand même, parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a quelque chose à restaurer. À restaurer le sens profond du mot et dire même, non seulement si tu es une célébrante, tu es une concélébrante, une co-célébrante, peut-être vous voulez. Mais si vous dites à ça une personne, elle va peut-être avoir envie de se bouger. Ça, c'est un motif pour participer à la liturgie. Ah bon, moi je croyais que j'étais une consommatrice, je pensais que j'étais une spectatrice, Je pensais que si la liturgie commençait, il n'y avait pas besoin de moi. C'est ce qui arrive d'ailleurs. Quand c'est la majorité de l'assemblée qui se constitue après 11h ou 11h30, alors que la liturgie a commencé à 10h30, ça veut dire que les personnes qui sont là n'ont pas du tout la conscience qu'ils sont concélébrants. Vous voyez, c'est pas grave, ils sont des bonnes personnes. Mais ils n'ont pas cette conscience-là. Ils n'ont pas cette conscience-là. Donc, ils ne sont pas liturges. Mais ils le sont, mais ils ne le savent pas. On leur a pas dit ça, on leur a pas prêché ça, on n'a pas enseigné la catéchèse. Ou les prêtres, nous, les prêtres, on a monopolisé quelque chose. Moi, je pense que là-bas, il y a quand même beaucoup dans notre camp. Moi, je pense que le ministère presbytéral a eu, on va dire que c'est le passé, que tout va bien maintenant. a eu tendance, disons, à monopoliser, vous voyez, à confisquer, voilà, à confisquer pour le bien, c'est toujours pour le bien qu'on fait ça, bien sûr, à confisquer quand même la vie liturgique et la vie sacerdotale, à se la réserver, à l'assumer, avec la complicité des fidèles, ça arrange bien, au fond. Les fidèles sont bien contents, le prêtre fait tout, il est payé pour ça, bon. Il est là à 8h pour une liturgie qui commence à 10h, c'est normal, c'est lui le prêtre, nous on arrive à 11h, on s'en fout. Mais tout ça c'est mauvais, vous voyez, on est complètement en dehors de la réalité qui est qu'on célèbre ensemble, voilà. Donc ça c'est le motif ecclésiologique. Et que ceci s'enracine dans la Genèse, puisque, encore 6 minutes je crois, puisque la dimension sacerdotale de l'être humain, elle est, j'allais dire, génétique. C'est pas pour jouer sur les mots avec le mot Genèse, mais elle est génétique au sens où c'est encore une chose naturelle. L'être humain a été fait comme ça, il a été fait pour ça, pour ça. On n'a pas le temps de relire tous les textes, mais vous relirez ça chez vous. J'ai regardé, c'est du chapitre 1 à 4 dans la Bible. Les 4 premiers chapitres de la Bible, si vous les lisez attentivement, vous voyez que l'être humain a reçu de Dieu, pas seulement une mission extérieure, si vous voulez, mais une constitution sacerdotale. Ça fait partie de la façon dont l'être humain fonctionne, de nommer les animaux, de les appeler par leur nom, et finalement avec Abel de faire des offrandes, et puis avec Seth, je sais pas, de prononcer le nom de Dieu. Donc en fait, on voit que l'être humain, dès l'origine, dès le principe, dès les 4 premiers chapitres de la Genèse, est un être sacerdotal, un être liturgique, parce que prononcer le nom de Dieu, c'est quand même une activité liturgique assez caractérisée, vous voyez. Et puis même, là c'est très très clair, parce qu'on dit, voilà, il a prononcé le nom de Dieu. Mais avant ça, on voit bien dans le dialogue d'Adam et Ève et de Dieu, on voit très bien qu'ils sont dans cette relation divino-humaine, qui est une des bases de la liturgie. Donc la nature sacerdotale de l'être humain ne vient pas seulement du baptême, encore que le baptême est absolument indispensable. Je ne suis pas là, je ne suis pas en train de relativiser le baptême, hein. Je suis en train de dire qu'en amont du baptême, il y a des données naturelles qui sont la base de la vie liturgique. Par tout ce que je viens de dire depuis le début du cours, ça ressort, je pense. Hein. Bon, ici, et puis alors, toujours à propos des motifs ecclésiologiques, il y a quelque chose qui est très important, je pense, c'est que ce que nous faisons quand nous avons une activité liturgique, quelle qu'elle soit, que ce soit, je ne parle pas de la bénédiction des voitures, si vous voulez, mais des offices très simples, bénir les maisons, c'est déjà très très élaboré, la bénédiction des maisons, mais les offices vêpres, matines, bien sûr, la liturgie, tout ce que nous le faisons par obéissance au Christ. Et le fait que l'Église soit gouvernée par l'obéissance spirituelle, qu'elle soit sous la tête du Christ, ça, c'est très, 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 très important. Ça fait que la vie liturgique, si vous voulez, elle est ecclésiale dans ce sens-là. C'est-à-dire que, quand le Christ dit « Faites ceci en mémoire de moi », c'est la phrase la plus caractéristique qui montre cette obéissance liturgique. Mais il l'a dit à plusieurs. Il l'a dit à ceux qui sont là. Il l'a dit à ceux qui sont convoqués. On est dans la... Il s'adresse à plusieurs personnes. C'est très vrai. Cette parole est dite à haute voix, donc... Elle n'est pas uniquement dite dans le sanctuaire pour les 2-3 barbus qui sont là à célébrer, vous voyez, non. Elle dit, tout le peuple doit entendre ça. Je me rappelle, je raconte que l'histoire parce que j'apprends que de la vie, pardon. C'était il y a 2-3 ans, il y a eu un hiver terrible, et moi je devais aller nous devions aller, Pascaline et moi, célébrer à Cherbourg, où il y a un petit groupe de gens. Bon, et puis, en fait, il est tombé de la neige, de la neige, de la neige, les autoroutes commençaient à être coupées, il y avait plus des sangs, je sais pas quoi. Donc, il venait le moment de pas y aller, tout simplement. C'était facile, on aurait pu téléphoner en disant, écoutez, il y a de la neige partout, on vient pas, les gens ont très bien compris. À la limite, ils auraient été contents, ça restait chez eux, tranquille, enfin bon. Bref, on y a été. On y a été. Et les fidèles là-bas, ça les a beaucoup impressionnés qu'on vienne. Et ils comprenaient pas très bien pourquoi. Je leur ai dit ça, je leur ai dit, mais moi si je viens, c'est pas pour vous faire plaisir, pas parce que vous êtes sympa, que vous aimez bien et tout, c'est pas un problème de sentiment. Mais c'est que l'église, c'est l'obéissance. Et le Christ dit, fais ceci en mémoire de moi. Donc moi je suis dans l'obéissance, je le fais. Je le fais, je le fais, je célèbre, nous célébrons, vous célébrez, ils célèbrent, enfin on va conjuguer le verbe célébrer à toutes les personnes si vous voulez, mais on va le conjuguer dans le sens d'une réponse au commandement du Christ. C'est vrai pour l'Eucharistie par excellence, mais c'est vrai pour le baptême. On baptise, pourquoi? Parce que le Christ nous dit de baptiser, c'est tout. Pourquoi est-ce qu'on marie? Parce que le Christ l'a fait à Cana de Galilée, donc on fait ce qu'il a fait, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. L'Église, c'est l'obéissance, c'est l'imitation du Christ. On suit le Christ, vous voyez. Et ça, ça veut dire aussi que la liturgie est une célébration très, très, très communautaire, quand même. Très communautaire. Nous devrions pouvoir célébrer, j'allais dire, comme un seul homme. Comme un seul homme, d'une seule voix. C'est-à-dire, si vous lisez les Actes des Apôtres, je vous ai apporté pour les lire, si on avait vraiment une panne, je ne savais plus quoi dire, j'aurais lu les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, on dit ça, on dit la multitude n'avait qu'un seul cœur. C'est-à-dire qu'on parle d'une communauté absolument unanime dans les choses de la foi, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'ils allaient tous chez le même boucher, chez le même boulanger, qu'ils passaient tous des vacances au même endroit, c'est pas ça que ça veut dire. Mais ils étaient unanimes dans le domaine de la foi, dans le domaine de la prière. Et donc l'activité liturgique, c'est un saisissement. C'est un saisissement de tous les gens qui se ramassent, qui se... Je sais pas si vous avez vu des poissons, c'est très beau, les films, vous savez, sur les fonds marins, on voit des, je trouve ça magnifique. Magnifique. Un banc de poissons, dans la mer, bien filmé, avec des bons éclairages. Tous, ils vont, tous ensemble comme ça, ils sont peut-être 1000. Vous avez déjà vu ça? Regardez les films sur les poissons de la mer, ou les oiseaux, par exemple, il y a des vols d'oiseaux, les vols des tourneaux, par exemple. Elles sont, je sais pas, ils sont plusieurs centaines. Et tous, hop, ils bougent comme s'ils étaient... Mais pourtant, ils sont tous séparés. Chaque oiseau est différent de l'autre oiseau. Ils bougent tous ensemble. C'est étonnant, ça. Et bien, la liturgie, c'est beaucoup ça. Si vous voulez, c'est une espèce de saisissement de tout un peuple. Et c'est pas un troupeau au sens bête du mot, vous voyez. Mais un peuple, parce qu'il y a une conscience. Un troupeau, c'est pas conscient, un troupeau. Mais un peuple, c'est conscient. Un peuple qui répond à l'appel, un peuple qui répond à la convocation, qui est un peuple qui dit « Oui, mais voici, je viens », comme dit David dans son psaume, ou qui répond à l'appel « Venez, célébrons le Seigneur ». C'est extraordinaire, vous voyez. C'est spontanéité. Et ça, il faudrait pouvoir le retrouver. On ne vient pas seulement à l'église parce que c'est marqué tel jour. Il faudrait arriver à sortir complètement, si vous voulez, des fonctionnements religieux, d'obligations on parle d'autre chose, si vous voulez. On parle d'autre chose. On devrait pouvoir être beaucoup plus dans la spontanéité, dans l'élan, dans l'enthousiasme, je me suis réjoui. C'est dans les psaumes de David aussi, ça. Je me suis réjoui quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. C'est extraordinaire, ça. Je me suis réjoui. Les enfants qui pleurent quand on amène à l'église, mais ils disent, non, réjouis-toi. J'ai vu l'inverse aussi. Un enfant à qui on avait dit, on peut pas aller à l'église aujourd'hui, il s'est mis à pleurer. Moi, je voulais aller à l'église. C'est formidable, un enfant qui pleure parce qu'il veut pas à l'église, c'est magnifique. Ah bon? Je donne ces exemples-là pour vous dire que chez David, chez le prophète David, il y a une très 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 grande conscience liturgique. Je pense que c'est vraiment un génie liturgique, le prophète David. Enfin, je ne l'ai pas connu personnellement, hein, je vous rassure tout de suite, mais tel qu'on le connaît par les psaumes, c'est un génie liturgique parce qu'il exprime justement cet élan de la prière, cet élan de la prière du peuple de Dieu. C'est vraiment très 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 beau. Même quand il dit « je », parce que la première personne... Mais c'est pareil, c'est comme dans la liturgie chrétienne. Le « je » chez David, c'est un genou. Si, bon, on s'arrête peut-être là-dessus. Donc ça, c'était le... Voilà. Alors, il reste plusieurs points très intéressants qu'on traitera la prochaine fois. Le motif pédagogique. J'avais beaucoup envie de parler de Maxime Kovalevski, mais comme je n'ai pas retrouvé le livre que je cherchais, ça tombe très bien que je ne puisse pas aborder le chapitre. Et puis, les motifs existentiels, les motifs traditionnels. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vous renvoie quand même, juste pour terminer, en conclusion, à ces textes de saint Paul qui disent dans Éphésiens 5, 19, il récitez entre vous des psaumes. Après ça, Colossiens 3, 16, chantez à Dieu des psaumes. Il semble que la psalmodie, c'est vraiment une expérience du peuple de Dieu fondamentale. C'est aussi une des bases de toute ce vie liturgique. Je dis ça parce que malheureusement, les psaumes, on a du mal à les restaurer dans la vie liturgique de notre Église. Par exemple, j'en profite pour le dire parce que c'est bien que je vous l'ai dit. Normalement, le samedi soir, sur les vêpres du dimanche, eh bien, il y a un catéchisme entier qu'on devrait entendre. Et on ne l'entend pas. On chante très bien, d'ailleurs. Bienheureux l'homme. Et encore, le psaume n'est pas chanté jusqu'au bout, d'ailleurs. Enfin, bref, on entend une bonne partie, on va dire. Et la suite du catéchisme, on ne l'entend pas. Et les petites litanies qu'ils ont prévues, elles sautent également dans l'usage actuel. Eh bien, c'est très dommage. Vous voyez? Alors, il y a des moments, par exemple, les vêpres du dimanche soir, donc les vêpres du lundi, il n'y a pas de catéchisme, c'est normal ça. Mais les vêpres du samedi soir, il y a un catéchisme entier, c'est le catéchisme 1 d'ailleurs, pas compliqué, il n'y a pas à chercher pendant 3 heures, catéchisme numéro 1. Mais normalement, ce catéchisme, on doit l'entendre complètement. Et ça fait partie de l'expérience liturgique traditionnelle, la nourriture, se nourrir des psaumes. Voilà, je vous remercie, je m'en pardonne. Bavardage d'une heure et demie, c'est quand même assez costaud. Hein. Alors, pendant ce temps-là, il y avait des questions qui arrivaient. Je crois que les questions, c'était quand est-ce que tu arrêtes, hein? Quand est-ce que tu as fini? Quand est-ce qu'on peut aller se coucher? C'est intéressant, la question. Oui, il dit une fille qui écrit: que faire si les personnes que l'on invite refusent de venir à chaque fois? Peut-on être toujours en communion avec de telles personnes? C'est une vraie question, hein. C'est je parlais de l'invitatoire, et puis l'invitatoire qui tombe à plat, la réponse est bof, oh non, ça me barbe. Et il y a un moment, effectivement, bon, c'est trop tard pour répondre maintenant, mais entre nous, c'est vrai que ça amène à une rupture de communion. Et c'était les canons de l'Église ancienne. Quelqu'un qui était absent de la célébration liturgique 3 dimanches de suite, il était considéré comme hors de l'Église, il devait s'expliquer devant l'évêque et être réconcilié solennellement. L'Église ancienne était très 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 dure avec ça. C'est pour vous dire que les problèmes d'absentéisme, ils datent pas d'hier matin. Hein. Donc c'est vrai qu'à un moment, la non-célébration remet en question l'appartenance à l'Église. Elle remet pas en question le baptême, on rebaptisait pas les gens quand même, si vous voulez. Mais si tu ne célèbres pas, il y a un moment où tu es en train de te déchristianiser complètement. Donc elle a raison, la fille qui a posé la question. Bon, autre question. C'est père, être gentil. C'est gentil, Père Gontran. Il dit, attention aux taches de loukoum sur la soutane. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est bien faire là-dessus. Bon. Il manque la partie la plus importante de mon message. J'ai écouté la première leçon que tu as donnée ce soir pour la liturgie. Je ne sais pas, il plaisante. Je ne comprends pas toujours les plaisanteries. Il doit y avoir un truc drôle. Mais Père Gontran, il faut prier pour lui. Il se donne beaucoup de mal pour sa femme, Sandra, qui est grave malade. Vraiment malade. Je voulais envoyer des messages, je crois, à tout le monde pour ça. Sandra Boussou, elle a leucémie, leucôme, tout très embêtant. Alors, après, c'était les messages. Attention aux tâches de leucôme sur la soutane. J'ai pas, il devait vouloir perturber le cours, je crois. Mais chahute, Père Gontran, chahute. Alors, merci. Pardonnez-moi.
En fait, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu ce que vous venez de dire. Cela fait 2000 ans que la distinction sacrée-profane n'existe plus, car le Christ est incarné. Parce que vous savez que Mircea Eliade insiste beaucoup sur, même pour l'homme religieux d'aujourd'hui, sur une rupture qui existerait entre l'espace sacré et le reste du monde, par exemple, une église au milieu de la cité, en poussant la porte, on perçoit autrement le mystère, par exemple. Est-ce juste une question de perception?
Non, mais je pense qu'on parle d'autre chose. On parle d'autre chose. La distinction ici, elle n'est pas entre le sacré et le profane, elle est entre le saint, le très saint, ou le moins saint, ou encore moins saint, c'est-à-dire les degrés. La sainteté, mais Aucun chrétien ne peut dire qu'en sortant de l'Église, il va dans un monde dont Dieu est absent. Ça, c'est un jeu qui est impossible à dire, vous voyez. Parce que même nous, nous allons dans le monde envoyé par le Christ, et tout ce que nous faisons dans le monde, nous le faisons à des personnes en qui le Christ habite. C'est très important, parce que justement, c'est cette distinction sacrée profane qui handicape beaucoup les chrétiens. Par exemple, qui les empêche de voir dans la souffrance du monde le Christ souffrant. Et ça, c'est parce qu'on n'arrivons pas à avoir un regard chrétien sur le monde, justement parce que nous restons prisonniers de cette distinction sacrée profane. Elle a existé, si vous voulez, mais elle appartient vraiment au monde déchu. Et continuer à l'affirmer, ça veut dire qu'on nie l'incarnation, qu'on nie la venue du Saint-Esprit dans le monde. Mais cela dit, il y a des degrés. C'est sûr qu'il y a c'est comme dans l'Église elle-même, si vous voulez. Il y a la partie narthex, que vous avez ici, je crois, je ne sais plus, oui, il me semble, la partie neuf et la partie sanctuaire. Il y avait ça dans le temple juif, hein, il y avait le saint et le saint des saints. Donc ce sont des degrés, si vous voulez. Mais même le saint par rapport au saint des saints n'est pas profane, vous voyez. Mais profane, étymologiquement, c'est ce qui est à l'extérieur du temple. Donc effectivement, mais nous les chrétiens, nous ne tenons pas à ça, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le temple, accrochez-vous bien, c'est le temple non fait de main d'homme qui nous intéresse. C'est-à-dire la communauté des baptisés. Et donc, il ne faut pas se focaliser sur les lieux de culte. Et là aussi, les choses ont changé hein, depuis le Christ n'a pas bâti une seule cathédrale ou église ou chapelle. Même bien, il n'a pas eu beaucoup de temps en 3 ans, le pauvre. Il a eu beaucoup à faire en 3 ans. Mais non, ce qu'il a bâti, c'est une église non faite de main d'homme. Alors, faire attention, dans l'histoire des religions, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, dont je me suis beaucoup servi les autres années, comme vous savez, pour faire des comparaisons. Mais justement, la comparaison s'arrête quand on commence à avoir la conscience de l'incarnation. Excusez-moi, on peut développer beaucoup, hein, mais c'est-à-dire que l'incarnation, si vous voulez, l'assume l'entière humanité. C'est-à-dire que même un athée, par exemple, même un athée, bénéficie de l'incarnation. L'humanité d'un athée est l'humanité du Christ, même s'il ne le sait pas. Pardon.
Je peux poser une deuxième.
Oui, bien sûr.
En fait, oui, que vous nous expliquez une autre chose que vous avez dit une autre fois, sur les enfants, surtout, que les enfants sont baptisés, mais qu'ils ne sont pas encore convertis. Que vous l'expliquiez dans la lumière de ce que vous avez dit sur le fait que les enfants c'est qu'on célèbre que la dimension sacerdotale de l'être humain est bien en amont du baptême, etc.
Oui, mais ça, c'est très vrai ce que vous dites, oui. Et c'est vrai pour les adultes d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est un problème général du chrétien, c'est d'avoir tout dans le baptême. Par exemple, dans le baptême, l'être humain reçoit tout. La capacité de guérir, de ressusciter les morts, tout. Mais entre ce qu'on a reçu dans le baptême et l'actualisation du don baptismal par la vie, il y a toute la vie chrétienne. Celui qui a le mieux parlé de ça, c'est saint Éphrem le Syrien. Il a beaucoup parlé de ça. Il a dit toute la vie chrétienne n'est pas autre chose que l'actualisation de la grâce baptismale. Mais si vous voulez, c'est pas que le problème des enfants, c'est le problème de moi, par exemple. Vous voyez, c'est-à-dire que je peux pas me considérer. Je vois bien, quand je regarde ma propre vie, je vois très bien que la grâce du baptême qui est en moi n'est pas encore totalement actualisée. Mes péchés sont là, je vois bien, mes passions sont là. Je vois, il y a des zones dans ma vie qui sont des zones très nettement de friche, disons, où la grâce du baptême ne s'est pas encore manifestée. Elles sont nombreuses, ces zones-là, chez moi.
Mais vous aviez dit à ce moment-là, cela est un don de Dieu. Quand vous avez dit,
comment ?
Ils ne sont pas encore convertis, cela est un don de Dieu.
Est un
don de Dieu.
Oui, oui, mais la grâce de la conversion, elle est quand même incluse dans la grâce baptismale. Hein, c'est la question de l'activation, de la grâce baptismale. Qu'est-ce qui fait que cette grâce que nous avons reçue, un jour va effectivement éclater en quelque sorte, étinceler. C'est pas forcément. Moi, je ne sais pas s'il faut attendre de Dieu toujours d'autres interventions. Justement, Père Saint-Hilaire parlait de ça. Père Saint-Hilaire a toujours parlé de quelque chose. Hein. Mais il parlait de ça. Il dit pourquoi est-ce qu'on est toujours à dire à Dieu, Kyrie eleison, est-ce qu'on n'a pas tout déjà ? Il dit en fait, là, nous avons tout. mais nous continuons continuellement, à lui demander encore et encore. Mais ça ne veut pas dire que nous ne l'ayons pas. Et la phrase de saint Séraphin de Sarov, par exemple, est très très mal traduite. On dit, le but de la vie chrétienne, c'est d'acquérir le Saint-Esprit. Excusez-moi, ça ne veut rien dire, ça. Est-ce que nous n'avons pas le Saint-Esprit par le baptême déjà? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais non, c'est autre chose, c'est hériter du Saint-Esprit, c'est-à-dire entrer en possession de l'héritage. Moi, par exemple, j'ai sur mon compte en banque, je ne sais pas si c'est pas le cas, mais ça pourrait être le cas, sur mon compte en banque, je reçois une somme importante, je ne sais pas, 600 000 euros, par exemple. Bon, je dis ça pour parler sérieusement. Mais justement, la banque, le banquier me téléphone, il me dit, monsieur Intel, vous avez 600 000 euros sur votre compte. Alors je dis, c'est pas vrai, si, ben bon, on discute. J'arrive pas à le croire. Je pense que c'est ça le problème, j'arrive pas à le croire. Et si j'arrive à le croire, je vais croire mon banquier, je vais aller à la banque, et je vais essayer de toucher cet argent, et puis d'acheter, je sais pas quoi, une Lamborghini, une super maison, enfin, il y a ta chose, ou construire une église, ça serait peut-être encore mieux, enfin, je vais en faire quelque chose. Mais tant que je ne vais pas à la banque, tant que je ne crois pas le banquier, qui me dit que j'ai 600 000 euros sur mon compte, et tant que je ne vais pas à la banque pour le toucher, cet argent, il va rester là-bas. Mais il reste là-bas. Il se dévalue un peu, ou pas trop, ça dépend où il est placé. Hein, mais... Et donc la grâce en nous, c'est un peu pareil, si vous voulez. Premièrement, nous n'y croyons pas vraiment, je vous assure. Hein. Sortez à la porte de l'église, interviewez les gens qui sortent de l'église, vous allez être surpris de voir à quel point ils sont peu conscients du don de Dieu qui est en eux. C'est impressionnant de voir ce que le chrétien moyen n'a aucune idée, aucune, n'ose absolument pas croire qu'il soit tellement doué, n'ose absolument pas croire cela, parce que aussi personne ne le lui dit, nous aussi, vous voyez, il faut que notre prédication, à nous les prêtres et les évêques, qu'on enseigne ça, qu'on dise aux gens, mais vous êtes des surdoués, vous avez tous les dons, vous avez la capacité, vous avez des capacités extraordinaires par le Saint-Baptême. Déjà, on devrait le prêcher, ça, pour que les gens le croient, ça, vraiment le croient. Et après ça, aller chez le banquier et le toucher. Que c'est le banquier, c'est celui qui nous apprend à prier, celui qui nous apprend à confesser nos péchés, celui qui nous apprend à jeûner, tout ce qu'on trouve dans l'Église, si vous voulez, les différents ministères, qui sont les banquiers de la grâce de Dieu. Le rôle des prêtres et des évêques est très très important. Ce sont eux qui nous permettent justement d'entrer en possession du trésor que nous avons. Oh, j'ai bien répondu, là, quand même, André, vous n'avez pas fait le contraire. Autre question, une autre question.
Moi, j'avais une question. Quand tu as parlé de... Oh, pardon. Parce qu'elle lisait quelque chose. Ah oui.
Ah là, mais c'est affreux, parce que... Non, mais pardon.
Tu as parlé de la fonction sacerdotale, non, de l'incarnation... position sacerdotale du Verbe incarné. Tu disais que quand le Christ multiplie les pains ou qu'il guérit, qui remodèle les yeux d'un aveugle, etc., c'était une fonction sacerdotale. Et j'avais toujours pensé que c'était sa fonction divine de créateur.
Oui.
Alors, est-ce que le pontife est un créateur?
Non, mais en fait, là aussi, on contemple le Christ qui est Dieu homme. Hein.
Oui.
Il est Dieu homme, donc en fait, il est bien sûr, ça, par exemple, les exemples qu'on donne là, c'est des manifestations de son activité créatrice en tant que Dieu.
Oui.
Mais il agit aussi en tant qu'homme parfait. Et donc l'activité sacerdotale du Christ, disons, c'est une manière de gérer sa capacité créatrice et divine, mais il la gère humainement quand il prend de la boue, c'est avec ses doigts humains qu'il met sur la toile. Donc, c'est-à-dire, sa capacité divine, son pouvoir créateur divin passe par son humanité. Et c'est ça, la vie sacerdotale. La vie sacerdotale, c'est un exercice humain de la grâce divine.
Ah,
c'est très déceptif. Je te remercie de poser la question, mais j'aurais dû le dire, ça. Quand je dis que nous sommes tous membres du sacerdoce du Christ, ça veut dire que nous avons tous la capacité d'exercer humainement des pouvoirs, des énergies, des capacités qui sont elles-mêmes divines. C'est-à-dire de faire humainement les choses divines, comme, alors que Dieu, lui, fait divinement les choses humaines. C'est le grand topo de Saint-Maxime, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a un échange. Dans le Christ, ce qui est humain se fait divinement, ce qui est divin se fait humainement. Et nous, ça peut pas être la même chose, vous voyez. Nous faisons humainement, nous réalisons humainement des capacités divines que nous avons héritées du baptême, par exemple. Et c'est pour justement pas comment dire séparer l'humanité et la divinité ni chez le Christ ni même chez nous, parce que nous, si nous sommes greffés sur le Christ, nous avons aussi une structure divino-humaine. La preuve, c'est que tout le monde nous parle de divinisation. Et la divinisation de l'homme, c'est pas quelque chose qui est surajouté, mais c'est le développement de ce qu'il est par le baptême. La divinisation, c'est l'actualisation de son état christique, si vous voulez, par le baptême. Et beaucoup de nos activités, par exemple, quand nous pardonnons, ben pardonner, c'est pas une activité uniquement humaine, psychologique, du genre. Non, c'est pas ça. C'est la manifestation d'un pouvoir divin qui est en moi et que j'exerce. J'exerce le pouvoir divin de pardonner à ce moment-là, oui. C'est très très intéressant de voir comment le divin passe par l'humain et comment l'humain est transfiguré par le divin. Un homme qui pardonne, c'est un homme transfiguré. Il est transfiguré parce que la grâce de Dieu vient de se manifester à travers son humanité. C'est vrai que c'est pas... Je sais pas si... Ça va, c'est à peu près clair. Alors, il y a eu une question, c'était le diacre. Alors, c'est un très bon diacre qui s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Attends, ça marche comment ça? L'être humain étant un être ontologiquement ecclésial, d'accord, comment cette puissance ontologique peut-elle être à ce point étouffée que l'homme n'y prête plus attention? Comment redonner ce goût de l'Église? Si on avait une, quelle serait la prière? Moi, je pense à la parabole de, vous savez, du semeur, hein. C'est que là, je pense que la même graine, si on l'applique au baptême, par exemple, la même graine tombe chez tous les baptisés. Mais c'est vrai qu'on voit dans certains cas ça fructifie, d'autres moyennement, chez d'autres pas du tout. Les gens qui sont baptisés, ils n'en ont rien fait de toute leur vie, ou ça sera peut-être d'autres années, moment, je ne sais pas. Eh bien, parce qu'ils l'ont laissé étouffer, parce qu'il y a eu les histoires de la vie, parce qu'il y a eu des mauvaises influences, des mauvaises lectures, parce qu'ils ont été trop souvent sur Internet, parce que je ne sais pas quoi, toutes sortes de motifs qui font que cette grâce tellement fragile, elle n'est pas détruite. La vraie question, si vous voulez, c'est que nous ne devons pas penser que la grâce du baptême puisse être retirée complètement. Saint Séraphin de Sarov dit ça. Il dit, même chez un assassin, quelqu'un qui aurait tué père et mère, mais plusieurs fois, par exemple, je sais pas si c'est possible, la grâce du Saint baptême ne pourrait pas lui être retirée. On ne rebaptise pas. C'est quand même intéressant, ça. On n'a jamais, dans l'Église ancienne, même les apostats, les gens qui avaient, c'est devenu musulmans, je sais pas quoi, vous voyez, parce que, ce qu'on comprend très bien, quand on découpe des enfants, comme à la télé, comme sur Facebook, tu vois les enfants qu'on décapite devant toi, évidemment tu deviens musulman, hein, ça c'est, je veux dire, qu'on comprend. Et imagine que ces personnes qui veulent redevenir chrétiennes, eh bien on ne la rebaptisera pas. Et c'est pour ça qu'on a instauré dans l'Église ancienne le sacrement du repentir ou de la pénitence, etc. C'était pour pouvoir reprendre des gens dans l'Église sans les rebaptiser. C'était considéré que la grâce du baptême ne peut pas être enlevée complètement, mais elle peut être réactivée. Voilà, c'est un phénomène de réactivation. C'est vrai que chez beaucoup de chrétiens, peut-être la majorité des chrétiens, je ne sais pas, je connais le nombre, la grâce du baptême est un petit peu au frigidaire. Hein. Et dans ma propre vie aussi, je vois bien. Dès que je travaille moins, dès que je prie moins, dès que je me lève moins le matin pour dire les offices, pour dire les psaumes, hein, ben je sens bien que ça se... En vacances, par exemple, la période du mois d'août, c'est redoutable. On se déchristianise très vite. Hein. En moins d'un mois, tu es déchristianisé. Hein, c'est pas un problème. Mais pourtant, c'est toujours là. Alors, il y a la nostalgie. C'est pour ça que dans le psaume 142, David dit ça, c'est très beau, les psaumes. Il dit, je me suis souvenu des jours d'autrefois. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité pour moi de me rappeler, quand même, d'avoir eu un moment dans ma vie, une grande joie et un grand amour pour Dieu. Et du coup, ça me remet en route, par exemple. Voyez. Et Emmanuel disait, quelle prière dire? Oh, ce sont beaucoup les prières d'absolution, quand même, qui réactivent. Mais après, c'est pas de la magie non plus, vous voyez, l'Église, il n'y a pas de magie dans l'Église. S'il y a de la magie, ça se saurait. Il n'y a pas de la magie, il y a de la synergie. Et s'il n'y a pas de la synergie, ça ne marche pas, hein. C'est vrai que souvent on est en panne, il y a des espèces de panne sacramentelle, de panne spirituelle dans l'Église qui viennent du fait que justement il n'y a pas de synergie, que la personne ne croit pas. Et justement, c'est Joachimov qui cite ça, c'est intéressant. Ah, j'aurais bien retrouvé ce passage-là. Cette idée que Dieu peut tout, enfin, c'est mal formulé son truc. Il dit, Dieu peut tout sauf sauver l'homme malgré lui. En fait, Dieu le peut, mais il le fera pas parce que s'il faisait ça, il écraserait l'être humain, il détruirait sa propre image. Donc il le fera pas, mais. Et donc c'est vrai que, la synergie, c'est une limite. Aussi, c'est une limite parce que si elle n'existe pas, tout tombe en panne. Hein. C'est la panne sur l'autoroute, c'est... t'as cassé ton moteur à un moment, bon... C'est vrai que c'est vrai. Et c'est pour ça que la catéchèse est importante, c'est pour ça que l'homélie est importante, que le témoignage que nous donnons est important, que nous donnons tellement de mal. Justement, on parlait de la catéchèse avec Mgr Joseph ces derniers temps, avec Père Julian aussi qui donne beaucoup de mal pour ça, et d'autres ici présents. Et parce qu'on essaie justement d'aider les enfants à activer cette grâce baptismale qui est en eux. À la découvrir. Découvrir que tu as un trésor. Découvre que tu as un trésor. Vous savez, c'est des personnes qui n'ont jamais chanté. Un jour, on les fait chanter un peu, on s'aperçoit qu'ils ont une voix. Ils s'aperçoivent qu'ils ont de l'oreille. Oh, extraordinaire, j'ai jamais pensé que je pouvais chanter. Ben si, tu vois. Il faut aussi découvrir qu'on peut peindre, qu'on peut dessiner, qu'on peut chanter, qu'on peut... Il y a telle chose qu'on peut faire. Et les dons sont chez nous souvent masqués, cachés, ou on nous a coupé les ailes aussi, quelquefois étant jeunes. Ça arrive, ça aussi, que les adultes fassent tout ce qu'il faut pour qu'un enfant ne dépasse pas, que sa tête ne dépasse absolument pas le niveau qui est fixé. Ça arrive aussi, il y a quelquefois une complicité du monde adulte hein, pour que les dons ne fructifient surtout pas. Hein. Ça, c'est... Il faut voir qu'est-ce qu'il y a comme... Il y a quelque chose de très pervers aussi dans la culture, dans le système social, qui fait que... Alors, ils ne dépasseront pas ça. Ils ne dépasseront pas ça. Et on va leur donner... À l'époque romaine, c'était des jeux et du pain. C'était ça. Comme ça, on est tranquille. Ils ne dépasseront pas ça, on est tranquille. Nous, à notre époque, on a d'autres trucs. Et c'est à peu près pareil. Bon, la télé, machin, on est sûr que les gens ne vont pas bouger. Hein. Donc, il faut savoir, nous, les chrétiens, on est là pour pas se révolter, si vous voulez, pour contester ça, pour dénoncer ça. On est là pour dénoncer tout ce qui empêche l'être humain d'épanouir les dons divins qui sont en lui. Il faut être violent aussi, quelquefois, vous voyez. Ça, c'est pas possible, parce que nous, on défend, le chrétien, c'est celui qui défend l'homme. Alors, défendre l'homme, c'est défendre l'image de Dieu en l'homme, défendre la grâce de Dieu en l'homme, défendre les dons charismatiques en l'homme. Et y compris dans le domaine religieux, qui est quelquefois très suspect. La religion, c'est très suspect, quelquefois. Hein. Il y a des formes de comportement religieux qui sont complètement anesthésiants, asservissants, et tout. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Hein. C'est pour ça que les prophètes avaient très bien vu, les grands saints ont vu ça. Et à chaque époque, il faut faire attention, il faut être vigilant, avec humilité. Moi, je parle comme un orgueilleux. Si vous direz la même chose avec humilité, ça sera mieux. Mais dire avec humilité que, attention, dans nos églises, dans nos paroisses, de pas laisser des comportements asservissants, infantilisants, se développer. Fais attention. Des formes de cléricalisme qui sont nuisibles à l'être humain, et des formes de démagogie, de ritualisme, c'est nuisible, c'est mauvais. Voilà, bon, c'est bon, ça peut durer la nuit aussi, hein. Mais on doit refaire tout, on doit tout réinventer, c'est ça qui est important. Mm-hmm. Tout réinventer. Le Christ nous a donné tout, mais on redécouvre tout, on réinvente tout par le Saint-Esprit. Pardonnez-moi. Il est digne en vérité de te célébrer, ô Mère de Dieu. Toujours bienheureuse et très pure et mère de notre Dieu, toi plus vénérable que les chérubins et plus glorieuse incomparablement que les séraphins. Toi qui sans tâche enfanta Dieu le Verbe, toi véritablement la mère de Dieu, nous t'exaltons. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Dieu est avec nous par sa grâce, son amour pour les hommes. En tout temps, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles.
Amen.
Bonne célébration de Noël, alors. Et célébrer Noël dans la joie. La joie des anges. C'est là que le Gloria, qui est une liturgie extrêmement extraordinaire, a été inventé ce jour-là par les anges. Gloire à Dieu, que les cieux, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. Les anges nous ont légué cette prière-là ce jour-là. C'est extraordinaire.